C'est donc tout autant le récit national algérien qui exalte son peuple comme homogène qui est délégitimé. On a donc une vision assez déridienne de l'héritage comme une herméneutique active qui prend acte des brisures imprimées par l'histoire coloniale. L'hommage est en même temps une rupture. La liberté critique s'exerce de manière multilatérale. Zahia Rahmani pointe la fonction de cette inégalité raciale en la mettant en lien avec l'inégalité sociale et sexuelle. En effet, les habitants blancs du village de l'Oise dans lequel la narratrice grandit vivent dans une pauvreté qui tient à leur exploitation économique et à leur isolement géographique. Ce sont pour la plupart des paysans ouvriers épuisés par leur travail mécanique en usine et qui n'accèdent pas à la culture des élites urbaines. Les effets de cette relégation culturelle sont énumérés dans le livre. Pas de livre, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de peinture, beaucoup d'alcool. Je vous lis la quatrième citation. Ils mangent du porc, ils boivent du vin, leurs femmes embrassent publiquement des hommes. C'est le périmètre dans lequel ils évaluent leur liberté. Je sais que mes lectures m'ont fortement influencé à propos de cette injustice qui me fait dire à mes voisins que je n'ai rien de différent d'eux. Et il est vrai qu'ils ne sont pas plus riches que moi. Leur intérieur ne recèle aucun héritage. Le formica, le faux chêne et le fauteuil acrylique sont les matériaux de leur quotidien. Je ne vis pas dans un ghetto noir de Memphis où tout me serait interdit, mais dans un ghetto blanc où toute particularité m'est refusée. Le mot de Dieu n'est jamais prononcé en ma présence, mais on me reproche la religion de mes parents sans me dire pourquoi celle-ci serait moins bonne qu'une autre. Leur conviction, c'est que je suis musulmane. Pour eux, c'est un degré de barbarie. Ils le situent au-dessus du leur, ce qui valorise et excite leur existence. L'inégalité raciale devient un dérivatif à la conscience d'une relégation sociale, en assurant au moins l'illusion d'une supériorité raciale et culturelle, mais l'inconsistance de cette prétendue liberté est ici mise à nu. Lorsqu'elle dit « je sais que mes lectures m'ont fortement influencée », elle fait ici allusion aux romanciers américains qu'elle a lus en étant adolescente, Faulkner, Caldwell, Hemingway, Steinbeck, Williams. Zahia Rahmani dit les lire avec ferveur parce qu'ils font jouer en elle un mécanisme d'identification avec les figures honnies du noir et de l'indien. Mais elle les lit aussi parce qu'ils lui donnent des outils pour comprendre la fonction compensatoire que peut remplir l'inégalité raciale. La littérature américaine a donc une efficacité cognitive puisqu'elle rend compte d'une racialisation des inégalités sociales. Zahia Rahmani a donc une lecture du roman américain qui est assez proche de celle de Sylvie Laurent qu'on a entendue hier, à ceci près qu'elle va jusqu'à mettre en relation la conquête coloniale des États-Unis et la conquête coloniale de l'Algérie, mais aussi jusqu'à rêver de ce que aurait pu être dans ces deux pays une révolte collective qui serait parvenue à surmonter le racisme pour interroger enfin frontalement les inégalités sociales. La littérature américaine donne aussi à la jeune fille les moyens de décoder subjectivement l'environnement dans lequel elle grandit. La littérature américaine m'enseigne, et non sans bouleversement, un peuple. Sans honte, elle me le dit. Elle me dit ses avanies, sa cruauté et ses dégradations. Je cherche l'homme déplacé et ses espoirs. Je cherche à comprendre la misérable origine de l'infamie, les certitudes de mes voisins, la répétition de leur pauvreté, l'autorité de leurs convictions et de leurs mots. Alors même que le contexte a beaucoup changé et que les connaissances sur les cultures des immigrés sont bien plus grandes aujourd'hui, Zahia Rahmani suggère que la figure générique de l'arabe ou du musulman, là j'ai pris un train d'avance sur ce que je veux dire après, excusez-moi, là je commence plutôt par parler d'un jeu de traduction du non-dit colonial français qui passe par le détour du roman américain. Mais l'effet de miroir est encore dédoublé puisque ce récit d'une enfance rurale dans les années 70 et 60-70 va permettre d'éclairer son contexte d'écriture, à savoir la France de 2005 en proie aux émeutes urbaines. pris d'un écœurement irrationnel dans une France qui brûle et ne cesse de nous salir. De salir nos petits qui sont nés là, devant constamment se justifier dans une cour d'école qui perpétue l'insulte et le dénigrement. Mes nièces soupirent de toutes les bassesses que l'on déverse sur elles, les Arabes, les musulmans, au point qu'elles ont fini par me dire qu'elles ne voulaient plus de ce lieu de récréation qui ne leur laisse que le Coran comme espace de vie. Elles embrassent ce livre avec le sourire, disent-elles, pour mieux prôner les vertus de Gandhi, se blindant à l'avance contre les effets violents du choc qui leur apprend que, même nées dans ce pays, d'un sang qui a cru à un avenir pour ses enfants, elles n'auront jamais de patrie. Je disais donc, alors même que le contexte a beaucoup changé, il y a tout de même une continuité au sens où la figure générique de l'arabe ou du musulman permet encore aujourd'hui d'ethniciser le national afin de produire le même évitement, à savoir le même impensé, celui des inégalités sociales. La question de la patrie se repose, d'où la ferme affirmation du titre « France, récit d'une enfance ». Et se dit la volonté de proposer le récit d'une vie singulière qui vienne participer à un récit commun. L'enjeu est de penser le semblable en le dégageant de la ressemblance exigée. Là encore, repenser l'égalité et la justice, c'est mettre en pratique par l'écriture une liberté qui est à la fois rupture et hommage. La ressemblance est exigée de toutes parts et elle est aussi modelée par des normes de genre. Le père de la narratrice est aussi modelé par un contrôle familial dont on parlait ce matin. Le père de la narratrice attend qu'elle respecte les interdits et les devoirs qu'il assigne aux femmes de la maison. Interdiction de regarder des images, la télévision, interdiction de sortir, de continuer sa scolarité, obligation de faire le ramadan. La ressemblance est aussi exigée, une autre forme de ressemblance est exigée des villageois, de la part des villageois qui attendent de la jeune fille qu'elle ait la même pratique de la liberté qu'eux, on en a vu le contenu tout à l'heure, boire du vin, manger du porc, se plier à une certaine image de la femme qui fait rimer séduction et soumission. Vivre au village. Or, la narratrice refuse de se conformer à tous ces impératifs et elle choisit de rompre avec ces deux modèles de ressemblance qu'elle juge étroits et aliénants, en se passionnant pour les livres, la peinture, le rock, et notamment Patti Smith, en expérimentant d'autres formes de socialité qui sont apparemment incompatibles entre elles, à savoir l'engagement politique dans un mouvement trotskiste et en même temps les affinités électives au sein d'une bande d'amis dans lequel elle découvre un certain goût pour la légèreté de la vie. Elle opère donc une constante négociation entre ce que Bourdieu appelle des injonctions contradictoires, c'est-à-dire n'être ni dans la militance orthodoxe, ni dans l'acquiescement à l'ordre des choses, n'être ni la femme cantonnée à la fonction domestique, ni la prostituée que son père lui a prédit qu'elle serait si elle s'aventurait dans le monde extérieur. La rupture est émancipatrice parce qu'elle permet de se soustraire à la reproduction sociale. Mais elle s'accompagne toujours d'un hommage, de l'invention d'une fidélité, et c'est ce que je trouve très beau dans le texte de Zahir Hamani, c'est-à-dire que rompre, ce n'est pas caricaturer l'autre, mais lui reconnaître toujours une dignité qui tient à des valeurs et à un savoir transmis. Ainsi, elle refuse de vivre comme sa mère, mais elle lui reconnaît un courage, une dignité, une douceur et une ruse aussi de la fable par laquelle elle lui transmet ce passé qui la structure. Ainsi, la narratrice refuse de vivre comme les villageois, mais elle leur est reconnaissante de lui avoir transmis un savoir de la terre et d'avoir partagé avec elle de longs moments dans ces lieux communs que sont les fermes, les potagers et les rues du village. C'est finalement ce rapport vivant avec la nature et puis aussi cet ensemble de souvenirs qui permettent à la narratrice de transformer un lieu périphérique, invisible, de cohabitation imposée, en un point d'ancrage dans lequel elle continue à séjourner. Elle a dans le livre cette phrase à la fois simple et très belle, « J'ai besoin d'un pays pour vivre ». Elle caractérise la proximité particulière qui existe entre elle et les villageois. Et finalement, le terme d'étranger est déplacé et s'applique à un autre groupe social récemment arrivé, à savoir ceux qui vivent dans les zones pavillonnaires et qui ne font pousser dans leur jardin que du gazon, ce que déplore longuement Zahir Hamani. Ainsi, des personnes illettrées qui pouvaient symboliser la fermeture deviennent des personnes du don et du legs. La mère qui vit enfermée dans sa maison, les paysans qui vivent dans leur village deviennent des personnes du don et de l'ouverture. Sur le plan esthétique, cette reconnaissance n'est pas revendiquée, mais elle passe par ce que j'appellerais un lyrisme du peu. Et Zahir Hamani dit elle-même que son écriture est, je cite, « sans rature et sans gras ». L'enjeu est de trouver une langue juste, au sens où elle est épurée de tout sentimentalisme, ramassée, en tension, mais aussi au sens où elle a une puissance poétique qui tient à sa qualité vocale et rythmique. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ses livres ont été récemment adaptés au théâtre. Ainsi, la rupture avec les autres permet la liberté, mais cette rupture est régulée par un idéal de justice. D'une part, la rupture est juste parce qu'elle s'exerce en tous sens, parce qu'elle correspond à une vigilance critique multilatérale. D'autre part, la rupture, ou pour encore employer un autre mot qui est dans le livre, la trahison, est juste parce qu'elle s'accompagne en même temps de la reconnaissance d'un lien social qui permet l'égalité. Ce lien social se compose de pratiques communes, de valeurs structurantes et de savoirs transmis, savoirs narratifs et linguistiques dans le cas de la mère, savoirs manuels dans le cas des villageois. Cette production d'un commun qui est donc multiforme suppose une renégociation constante qui empêche le double écueil qu'on a évoqué hier, celui de l'idéalisation d'un côté et celui du misérabilisme ou du dolorisme de l'autre. Donc il y a une manière de maintenir toujours vivante une conflictualité qui permet de déjouer le substantialisme. Pour conclure, je voudrais revenir brièvement sur trois points parmi d'autres qu'on a soulevés pendant ce colloque. Tout d'abord, la question de ce qui fonde la légitimité à évoquer les inégalités et les violences sociales. Ici, c'est de manière assez simple l'expérience personnelle de Zahir Hamani qui lui confère une position de témoin, au sens ici non pas d'observatrice mais de protagoniste. Mais c'est tout autant son travail d'écrivain, je parlerai d'engagement énonciatif, qui passe par une hybridité générique mais aussi par un travail intertextuel et l'invention d'une langue. Autre point, on a souvent soulevé la question de l'articulation entre la connaissance des inégalités et l'action. Ce que je puise pour ma part dans le livre de Zahir Hamani, c'est que pour sortir des stéréotypes, elle ne réalise pas tant un acte de nomination qu'elle ne met plutôt en œuvre une éthique divisionniste. Et c'est cette éthique divisionniste, de division constante, qui permet finalement de mettre en pratique une politique de l'égalité. C'est-à-dire que vivre en égo, c'est trouver dans chaque personne ou dans chaque groupe social côtoyé ce avec quoi l'on rompt et indissociablement ce qu'en lui on respecte, ce à quoi on décide d'être fidèle. Enfin, on a rencontré pendant ce colloque des visions discordantes de la notion d'individu, qui pouvait être un synonyme de repli individualiste, ou encore d'alternative dépolitisante à la catégorie de classe, ou encore synonyme de capacité, donc des significations très contradictoires. Dans le cas précis de ce récit France, récit d'une enfance, c'est précisément c'est le récit d'une émancipation individuelle, d'une construction comme sujet qui permet qui a des implications collectives, indissociablement. Ça me semble artificiel pour le coup de séparer l'individuel et le collectif. Ces implications collectives sont à la fois rétrospectives, à savoir construire un passé commun en rendant une forme de passé national qui est, en rendant une forme de passé national visible. Et puis ce sont aussi des implications prospectives, à savoir quel geste quotidien assure la survie, quelle parole, quel geste. Et le paradoxe peut-être proprement littéraire, c'est que c'est l'invention d'une langue singulière qui permet de repenser les modalités du commun. Je vous remercie.
Merci beaucoup Inès. Enfin, j'ai dit que ça n'était pas lié à ton sujet de thèse, mais puisqu'en fait tu as parlé de la contre-épopée généalogique, je me suis totalement trompée, puisque c'était donc son sujet de recherche. Merci aussi pour cette communication donc, qu'on avait placée là, parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agissait de parler de l'expérience de l'injustice, donc du point de vue du témoin, et en cela, évidemment, le récit de Zahir Hamani est complètement pertinent, mais je ne m'attendais pas à ce que tu ressaisisses à ce point, en fait, toute une série de problématiques du colloque qui, effectivement, se cumulent, d'une certaine manière, dans l'expérience de Zahir Hamani, que ce soit l'expérience des inégalités héritées, l'expérience du cumul des inégalités dans le sujet, la famille comme lieu du contraste social et comme expérience en même temps de l'amour et du dépassement, par une certaine forme d'amour, mais un peu compliqué quand même, de construction du commun malgré tout, et aussi cette tension sur laquelle tu es revenu à la fin entre dolorisme et idéalisation. Enfin voilà, tout ça résonnait beaucoup avec des thèmes du colloque, et on faisait une espèce de synthèse dans cette personne qu'on aimerait avoir là dans la salle, puisqu'elle incarne en quelque sorte toutes les inégalités possibles. Donc ça aurait été ça aurait été super de l'avoir de fait, mais bon. On va enchaîner avec une communication qui devrait là aussi résonner, je pense, avec ces questions-là, puisqu'elle va ressaisir là sous un angle pour l'instant. Je vais juste lire le titre, qui s'appelle « Du ressentiment à l'empathie ». Donc ça va résonner aussi avec le début du colloque sur la notion de ressentiment, j'imagine. « Catégorie pour une représentation de l'injustice ».
Alors, merci beaucoup. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invitée pour un colloque qui est passionnant depuis le début. Et c'est la joie de faire partie de la dernière table ronde, c'est qu'en effet, on cumule, comme ça vient d'être dit, on a le droit de faire référence aux autres communications. Idéalement, j'aimerais bien recomposer le programme et avoir une table ronde avec, à ma gauche, Nicolas Duvoux, qui est parti, et à ma droite, Ruven Augien, qui est parti également. Mais j'ai envie d'avoir tout le monde dans ma table ronde. Et ce que je vais dire connecte donc avec, en effet, le ressentiment déjà présenté par Nicolas Duvoux il y a deux jours, mais aussi avec ce que disait Ruven Augien sur la philosophie morale et le care, enfin sur tout ce qui est le compassionnel, le tournant compassionnel et le care dans la philosophie morale, puisque dire autrement ressentiment et empathie en dehors de la littérature, c'est aussi dire par exemple des études sociologiques de l'injustice, ou dire aujourd'hui des choses sur la compassion et le care. Mais tout ce que je vais dire est lié aussi à la présentation que vient de faire Inès, puisque je vais vous parler en tant que littéraire, et vous parler notamment, vers le milieu de ma communication, d'écriture littéraire et des enjeux d'une écriture subjective, particularisante, qui cependant touche à des sujets politiques, historiques et au commun, comme tu viens de le dire. Alors sans refaire complètement le colloque, mais un peu quand même, on a parlé donc des différentes scansions qui ont progressivement modifié dans les 30 dernières années le discours sur les inégalités. Je vais vous parler des scansions, y compris littéraires et philosophiques, que je vois depuis un point de vue de comparatiste. Pierre Rosanvallon, lui, était remonté plus en amont pour nous parler du 19e siècle, comme d'une époque où l'on inventait de nouveaux outils pour représenter et comprendre et la société et l'inégalité. Et je vais là aussi faire un argument littéraire pour dire qu'aujourd'hui, le texte littéraire a en partie aussi de nouveau cette fonction. Mais plutôt que de parler ici, comme on l'a fait hier, d'une possible justification des pouvoirs de la littérature comme pouvoir de réparation, pouvoir d'éveil à l'injustice, on avait dit, ou provocation à l'action, je vais revenir plus précisément sur cette fonction de représentation et de compréhension que peut avoir le texte littéraire. D'où ma place finalement très bonne dans cette table ronde « Éprouver les inégalités et les injustices » et le titre donc « Du ressentiment à l'empathie, catégorie pour une représentation de l'injustice ». j'ai deux idées qui forment deux extrémités d'un spectre des passions contemporaines, si vous voulez. L'une étant donc celle du ressentiment, une figure qui est liée à l'injustice sociale, on l'a dit hier, telle qu'elle est vécue et exprimée, figure de l'injustice qui est très problématique. L'autre figure, à l'autre extrémité du spectre, c'est la question de l'empathie. Et ces deux figures, une mauvaise passion et une bonne passion, si vous voulez, même si le côté mauvais ou le côté bon est à réexaminer, montrent un spectre des passions actuellement en cours de redéfinition. Non pas que les auteurs dont je vais vous parler aient une théorie des passions à énoncer, non pas que j'en ai une non plus, mais que je pense leur travail signale une redistribution en cours des théories des passions de référence qui accompagne cette histoire de l'évolution des discours sur les 30 dernières années dont on parle et un mouvement plus large d'individualisation des sociétés. Donc, ces deux catégories m'intéressent d'abord parce qu'elles sont problématiques, parce qu'elles ressurgissent systématiquement dans des textes qui font souvent partie de mes corpus, donc de la littérature contemporaine ou récente préoccupée d'histoire, de la littérature postcoloniale ou de la littérature post-holocauste. Raphaël vous a parlé de mes sujets habituels, donc Coetzee, sud-africain, souvent associé à un courant postcolonial, l'écrivain allemand W.G. Sebald, écrivant sur la mémoire européenne et notamment la mémoire de l'Holocauste, Imre Kertész, écrivain hongrois, écrivant sur les camps de concentration, sur la déportation. Chez des écrivains comme ceux-là, les questions du ressentiment et de l'empathie surgissent, se répètent, sont toujours réouvertes et de façon très intéressante. Donc, elles m'intéressent comme catégorie de représentation. Elles m'intéressent aussi parce qu'elles sont problématiques, parce qu'il y a des retards dans l'utilisation de ces catégories, parce que quand on cherche, Colline parlait tout à l'heure des chiffres disponibles, moi je cherche les textes disponibles, quand on cherche des textes disponibles sur ces catégories-là, il n'y en a pas tant que ça, et pourtant elles sont là, elles sont présentes. Donc des retards, des impensés de ces deux catégories présentes actuellement. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'elles permettent dans l'étude d'une variation du plus particulier au plus général. Le ressentiment et l'empathie, comme l'a dit Nicolas Duvoux, le ressentiment est une passion très intéressante parce que c'est une passion liée au plus proche, liée à la petite. Il parlait du narcissisme de la petite différence. On a du ressentiment envers ce qui est le plus proche de nous. On a aussi de l'empathie envers ce qui est le plus proche de nous, envers la souffrance qui nous est visible. Mais ensuite, ces deux catégories sont également généralisables et il y a une espèce de mouvement qui se fait du plus particulier au plus général, qui est également interrogé dans les textes qui m'intéressent. Alors pour ce qui est des textes disponibles, mon corpus à moi, littéraire, philosophique, un petit peu mélangé, est un corpus des années 80, les décennies, les trois dernières décennies du XXe siècle. C'est donc les mêmes années qu'un corpus sociologique. On est dans la même vingtaine d'années qui a vu l'apparition de La misère du monde en 1993, pardon, et aussi de la souffrance à distance de Boltanski la même année que La misère du monde. On est donc dans les mêmes années où il y a une nouvelle question sociale, où les sciences sociales retournent à une question de la souffrance, éventuellement du sujet souffrant, alors qu'il y avait eu un effacement revendiqué du sujet auparavant. Dans le même temps, l'écriture littéraire s'est intéressée de nouveau, on a parlé d'un retour au réel, alors on a parlé d'abord d'un retour à l'histoire, mais le retour à l'histoire est aussi un retour au réel plus général, s'est intéressée aussi au sujet, et notamment au sujet souffrant, au sujet, alors aux oubliés, aux invisibles, aux vaincus, par opposition, disait l'autre, à celle aux vainqueurs, enfin on fait l'histoire des vaincus et non pas l'histoire des vainqueurs. La théorie littéraire, enfin, à la suite de ce mouvement littéraire, se tourne, elle, de plus en plus vers l'éthique. Après avoir beaucoup parlé d'histoire, elle parle aujourd'hui d'éthique. Elle se tourne de plus en plus vers une étude des émotions. Alors le mot émotion est à la mode aujourd'hui. Alors j'interroge en 15 minutes, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ce qui m'intéresse, c'est cette présence des écritures de la souffrance, mais qu'on pourrait appeler aussi écriture de l'impuissance. Et c'est là le risque. Parce qu'elles font appel doublement à une espèce de conscience sociale, un imaginaire commun de la mauvaise conscience, une mauvaise conscience qui est à la fois historique. Alors il y a toute la mauvaise conscience postcoloniale, toute la mauvaise conscience d'un procès de l'Occident qui n'en finit pas de se faire, et puis une mauvaise conscience sociale. cette mauvaise conscience pourrait biaiser les textes et les faire tomber dans certains écueils, puisque cherchant à représenter les subalternes, l'infâme, l'invisible, on a un risque de facilité, de sentimentalisme, dont on a parlé dès le début du colloque, mais qui en fait est une vieille question du littéraire. La question du sentimentalisme lié à l'empathie que peut provoquer un texte littéraire, lié à l'effet d'identification qu'on peut avoir en lisant un texte littéraire ou en allant au théâtre, cette critique de l'empathie et du sentimentalisme, elle est très vieille. Enfin, elle fait partie de l'histoire de la littérature. Elle remonte au moins au XVIIIe siècle, sinon plus avant. Donc, c'est dénoncé depuis longtemps. Et ces éléments problématiques à l'intérieur de l'empathie ou du ressentiment sont anciens. Mais ces questions ressurgissant dans les textes actuels, il me semble qu'il y a une réactualisation de ces caractères problématiques. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi de montrer comment il y a quelque chose dans ces textes littéraires qui dépasse une écriture de l'impuissance. Dans le contexte des postes, donc post-colonialité, post-holocauste, violente du XXe siècle, la fiction fait un effort de renouvellement méthodologique. Certaines fictions, certains auteurs, les miens, enfin ceux que je défends, et montrent quelque chose qui est de l'ordre d'une crise de la représentation. Et cherche à la résoudre, notamment par les outils dont vous parlez, Inès, tout à l'heure, donc je suis ravie qu'elle ait commencé, parce que comme ça, je fais moins d'explications littéraires, par un travail d'expression subjective et très expérimentale, souvent, qui revient sur des voies singulières, problématiques, de narrateurs devenus compliqués à comprendre pour un lecteur qui chercherait encore des narrateurs tels ceux du XIXe siècle. Des auteurs comme donc Coetzee, Kertész ou Sebald, donc des auteurs de l'après, imprégnés de cette culture littéraire du retour au réel et du retour à l'histoire, revendiquent pour la fiction un potentiel propre d'interrogation des cadres de l'expérience. Et c'est pas seulement l'expérience historique, c'est une expérience plus générale liée à ces passions, donc à ces émotions qu'on met en scène dans la fiction, mais qui sont des passions également à dimension sociale, dans la mesure où elles concernent le commun, où elles sont politiques, que ce soit parce qu'elles sont liées à des constats historiques ou à des rappels historiques, ou que ce soit parce qu'elles sont liées tout simplement à un rapport à l'autre qu'il s'agit de remettre en scène. Donc, avec les outils de la littérature, on peut parler d'élaboration de théorie du sentiment, de théorie des passions, sur fond historique, bien sûr, mais toujours aussi avec la conscience d'un écueil qui est celui de trop revenir à une écriture de la victime et de l'impuissance. Pour des auteurs comme ceux-ci, il s'agit plutôt de défendre non pas une écriture de l'impuissance, mais une littérature qui se reconcentre sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle sait vraiment faire, c'est-à-dire déjà montrer et comprendre le jeu des passions. C'est depuis toujours, et c'est depuis Aristote, une des vertus du texte littéraire et du texte théâtral, que de mettre en jeu et en scène les passions. Donc montrer et comprendre le jeu des passions. Montrer et comprendre les frontières qui sont là dans les rapports sociaux, mais qui sont là aussi dans l'empathie, la différence de soi à l'autre, la différence de moi spectateur vis-à-vis du personnage qui est là sur la scène et auquel je m'identifie, mais dont je sais qu'il n'est pas moi. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une frontière problématique qui est là dans la lecture ou l'expérience littéraire. Troisième chose que la littérature sait faire, c'est mettre en scène aussi quelque chose de l'ordre d'un rite. Un rite recommencé à chaque texte, rite qui est soit un rite de reconnaissance, et je trouve qu'il y en a eu beaucoup hier, tout ce qui était les constats d'inégalité et la façon de dire et la façon de provoquer une pensée de l'inégalité. Donc c'est des formes de rites de reconnaissance et rites de réparation ou d'exorcisme, qu'ils réussissent ou non. Ce sont en tout cas des rites toujours rejoués. Donc il s'agit toujours pour la littérature, comme elle l'a fait depuis Aristote, de transmettre en touchant, de transmettre en faisant appel à un jeu des émotions, mais sans tomber dans l'écueil du sentimentalisme. Et c'est là que je trouve c'est aussi pertinent par rapport à ce que disait Didier Bezas hier. On a toujours les dangers de la fiction qui sont toujours cette question de l'émotion, du possible potentiel excessif de la fiction à provoquer l'émotion. Et je comprends tout à fait la méfiance de Bourdieu qui voit le danger de la mise en scène de ces entretiens censés être sociologiques. Mais nos vieilles leçons de littérature nous disent justement que c'est parce que la littérature introduit une distance supplémentaire et joue sur cette distance supplémentaire, c'est parce qu'il y a cette distance, c'est dans cette distance-là que tout se joue et se défait, et que le simulacre qu'on met à la place du témoignage, l'identification, ce moment où on se dit « ceci est proche de moi, mais n'est pas moi », c'est ce qui fait le fond d'une possible compréhension apportée par le texte littéraire. Donc, pour en venir au contexte, après avoir longuement problématisé, il faut mettre tout ça sur une toile de fond de théorie dont on a un petit peu parlé aussi dans les deux derniers jours, par rapport auxquels se situent ces textes littéraires. Alors, en histoire littéraire, on a deux grands axes possibles sur la fin du XXe siècle, c'est les études postcoloniales, la question de la littérature postcoloniale et puis la question de la littérature post-Holocauste. Ces deux grands axes littéraires sont liés à une forme à la fois de ressentiment et aussi d'empathie. Le postcolonial est tout entier construit sur un désir de une revendication première, la nécessité de déconstruire des catégories et d'en reconstruire d'autres. Il est tout entier construit également sur la nécessité de donner la parole à l'autre. Et là, ce que tu disais sur faire parler les pauvres, c'est... Alors, Gayatri Spivak a écrit un texte sur « Est-ce que can the subaltern speak ?» Il y a plusieurs décennies qui posent exactement cette question-là. Et cette question-là est comme déjà digérée, intégrée dans un patrimoine littéraire et philosophique par rapport auquel écrivent ces auteurs. Donc, reposer ces questions actuellement, on ne peut pas le faire sans avoir conscience de ces textes-là. Pareil, tout ce qui est alors une pensée globalement post-Holocauste a mis au premier plan, pour certains, une réflexion sur tout ce qui est l'écriture du témoignage, du trauma, de la victime, enfin la place qu'on peut donner, la manière dont on peut lire ou comprendre un texte de témoignage. Texte de témoignage, c'est également lié à une forme de revendication qui peut être rapportée à du ressentiment notamment. C'est aussi lié à un jeu sur l'empathie, nécessairement présent à partir du moment où on lit un texte de témoignage. Alors, je ne sais pas combien de minutes j'ai. Les étudiants présents savent que je finis jamais entièrement mes communications, mais que j'ai toujours beaucoup à dire. J'ai combien à peu près ? J'ai 8 minutes, donc tout va bien. Ces différents mouvements littéraires et puis mouvements caractéristiques d'une pensée occidentale de la fin du XXe siècle sont là et comme digérés par notre conscience historique occidentale. Ils sont déjà là. Maintenant, des auteurs comme Coetzee, Kertész ou Sebald ou d'autres écrivent par rapport à ces catégories-là en se méfiant, comme la peste, d'effets excessifs que pourrait avoir une écriture du ressentiment, une écriture de l'empathie. Alors, quelques exemples. On connaît le texte de Coetzee, Elisabeth Costello, souvent. Elisabeth Costello est une figure d'auteur, d'écrivain littéraire qui est en quelque sorte une incarnation de Coetzee lui-même, qui est mise en scène dans un texte qui a le titre Elisabeth Costello, comme un personnage défenseur, justement voulant prendre la place de tous les souffrants et de tous les invisibles, et notamment des animaux. Enfin, voulant expliquer la souffrance des animaux, comprendre la souffrance des animaux, et l'expliquer sur scène devant un public universitaire, critique, général. Et il y a tout un passage central du roman où elle est décrite sur scène, où elle se compare au singe de Kafka, donc le singe Rodpeter, donc expliquant la question de la souffrance animale, elle se compare elle-même à un animal, un animal blessé et souffrant, comme si elle portait en elle, ou elle prenait sur elle, la blessure, la souffrance des êtres souffrants dont elle parle. Mais tout le texte tourne en partie autour de l'incompréhension totale qui bloque la communication entre Elisabeth Costello et son public, entre Elisabeth Costello et les différents personnages dont elle parle. Donc il y a non seulement une mise en scène de l'empathie, là, de la souffrance, enfin de tout un questionnement autour de la souffrance, il y a aussi une espèce de dérive du discours de Costello qui ne maîtrise plus ses propres, la manifestation de sa propre empathie, de ses propres sentiments, et qui ne trouve pas le bon point d'ancrage pour cette souffrance qu'elle essaye d'exprimer, afin de la transmettre à un auditoire auquel elle parle. Donc il y a tout un jeu sur la thématique de la compassion, de la sympathie, de l'empathie, mais et également sur son dysfonctionnement. Dans les textes de Sebald également, on a une espèce de... Alors, c'est un autre programme littéraire, ce sont des textes qui essayent de dire toutes les douleurs passées, toutes les douleurs invisibles provoquées par l'histoire. Et il y a une espèce de... Il y a tellement de douleurs représentées au fil des textes qu'on finit par avoir une espèce de continuité de la souffrance à travers les êtres. Donc les narrateurs sont sans cesse en train de prendre sur eux, là aussi, la souffrance des êtres qu'ils regardent ou dont ils apprennent l'existence. Mais cette souffrance devient une espèce de chaîne continue qui lie tous les êtres vivants. Pourtant, elle ne tombe jamais dans un sentimentalisme excessif. Et quand on lit de cet auteur-là, on voit un travail très précis d'évitement de toute forme de pathos à l'intérieur du texte littéraire. Et c'est pour ça que son texte marche si bien, parce qu'il dit à la fois des choses qui font appel à des émotions très précises et en même temps repose sur une stylistique totalement neutre et d'une élégance qui fait appel à des formes anciennes de la langue allemande, etc., mais qui évite tout effet possible de projection, d'identification trop empathique. Et même quand il y a le risque d'une empathie trop forte, il y a des moments d'ironie, de retournement. On croit qu'on est en train de lire un livre qui porte sur notre mauvaise conscience historique. On est tout prêt à avoir pitié de la victime. Et en fait, la pitié ne marche pas du tout parce qu'à la page suivante, il se passe quelque chose qui déconstruit cette pitié et vous empêche, vous, en tant que lecteur, d'avoir la réaction que pourtant, avec votre bonne conscience historique, vous auriez désiré avoir. Donc, sans que l'imagination sympathique ni un travail sur l'empathie ne soient bannis du texte, il y a en même temps un travail précis sur les modes de transmission de l'affect, sur les modes de transmission du sentiment et sur une modération nécessaire de l'empathie. Pour ce qui est du ressentiment, alors je vais prendre un autre exemple, alors c'est le troisième, c'est Kertész. Kertész qui est beaucoup plus directement concerné par une souffrance historique liée à la déportation qu'il a vécue enfant à l'âge de 14 ans et qu'il décrit dans son premier texte publié, donc « Être sans destin », pour lequel il a eu le prix Nobel, expérience sur laquelle il revient régulièrement dans les textes suivants. Son projet littéraire naît du désir de dire une réalité, du besoin de dire, et surtout du besoin de ne pas laisser oublier dans la conscience historique occidentale les réalités, les faits dont il parle. Et là, il y a un lien avec la question de la visibilité ou l'invisibilité dont on parle depuis le début dans les questions de justice, injustice. Le premier mouvement du témoignage est bien un mouvement d'insistance sur ce qui doit être visible, ce qui doit être maintenu dans la conscience historique ou sociale, tout simplement, d'une communauté plus large de lecteurs. Mais Kertész nous parle aussi des risques, ou en tout cas de caractéristiques plus compliquées du ressentiment. Dans la mesure où il réfléchit, alors il appelle ça, il insiste beaucoup tout d'abord sur le temps arrêté dans lequel il se trouve. Et c'est une des caractéristiques du ressentiment. C'est un temps arrêté, c'est le temps du témoignage, donc c'est le temps d'un retour éternel sur cet état, cette injustice passée qu'il s'agit de répéter sans cesse et dont en fait le narrateur paraît parfois ne jamais sortir puisque tout le texte est construit sur la répétition. Alors c'est une répétition qui est souvent une répétition sur le mode du nom, un nom qui est récurrent dans le texte lui-même, qui est le nom du ressentiment et du refus d'oublier. Et cette répétition-là, c'est aussi un éternel présent. Alors, il appelle ça lui-même l'éternel présent, dans lequel il est bloqué parce qu'il ne peut pas oublier. Et il s'agit surtout de ne pas laisser oublier le reste de la communauté politique, historique. Cet éternel présent serait donc un des risques possibles du ressentiment, puisque c'est le blocage. Quand on est dans une écriture du ressentiment, on ne sort pas vers une deuxième phase qui serait l'incitation à l'action, enfin, dans cette description cartésienne du ressentiment. La deuxième chose sur laquelle il insiste, c'est l'infirmité dans laquelle ça le met. Alors, il appelle ça une infirmité, une sclérose des sentiments, puisque toutes les passions disponibles, en fait, sont concentrées sur une seule passion, qui est celle du ressentiment, qui oriente complètement le projet d'écriture. Et pourtant, un écrivain comme Cartès est intéressant parce que tout en insistant, en pointant des caractéristiques de ces passions complexes, il les pense. Alors, il les pense par rapport à des références philosophiques. Et alors, quand je parlais de textes disponibles, j'en ai pas cité assez tout à l'heure parce que dans la panique, j'ai agité mes feuilles et puis j'en ai perdu une en route. Mais dans les textes disponibles sur le ressentiment, il y a des théories du ressentiment. Alors, il y a une pensée nietzschéenne du ressentiment. Il y a une pensée schellerienne ensuite du ressentiment, et Cartès écrit à connaissance de ces deux théories-là. Nietzsche était contre, notamment la pitié, qu'il voyait comme liée à la dégénérescence de la civilisation, et il refusait toute pitié qu'il voyait comme tissée de ressentiment, disait-il. Donc, associée à une fausse moralité judéo-chrétienne liée aussi à une forme de faiblesse qu'il fallait écarter. Scheller ensuite développe et prolonge ses thèses en s'efforçant de se détacher des conceptions propres au christianisme dont parle Nietzsche, mais développe et prolonge ses thèses en essayant de leur donner une dimension plus sociale. Depuis Nietzsche et Scheller sur le ressentiment, il n'y a pas tant de textes disponibles que cela, mais il me semble que cette catégorie du ressentiment ressurgit partout. Alors Nicolas Duvoux, notamment, je sais qu'il y a une publication en cours qui va sortir là en juin sur le ressentiment comme passion politique. Mais ce sont des questions actuelles, et le fait de les voir agitées par des écrivains qui sont des écrivains de la conscience historique est intéressant parce qu'il les replace à côté de questions qui sont des questions qui sont partagées par tous, en interrogeant les implications de passions comme celle-là. Alors là où il est intéressant, dernier point, Cartès, donc écrit par rapport à Nietzsche, écrit par rapport à Scheller, écrit aussi par rapport à Jean Améry, qui était un grand penseur du ressentiment, qui était aussi un écrivain marqué par la déportation et une expérience traumatisante de la Deuxième Guerre mondiale. Et Améry a poussé jusqu'au bout sa philosophie du ressentiment, donc un ressentiment qui est un refus absolument absolu d'oublier et qui s'est terminé dans une série de textes très beaux sur le ressentiment et sur un mouvement final de suicide. Le ressentiment cartésien s'inscrit contre ce travail-là d'Améry, enfin ce travail extrême d'Améry, puisque lui prône au contraire un travail ouvert sur l'avenir, un travail de transmission envers une communauté de lecteurs futurs, et surtout un travail progressif d'exploration, de compréhension par le littéraire des passions dont il parle. Donc lui est dans, alors non pas exactement l'incitation à l'action, mais en tout cas une dynamique qui est une dynamique prospective, enfin, et qui parle d'un présent partagé de passions politiques. Alors pour finir, après ces quelques exemples littéraires, bien sûr, qui devraient être développés plus avant, je dirais que dans ces jeux sur les affects empêchés, enfin, sur ces textes qui à la fois mettent en scène des émotions, enfin, font revenir à la surface des émotions partagées et des émotions qui sont communes à différentes disciplines et différentes sphères sociales. Il y a un travail donc sur l'empêchement des passions et leur redistribution qui fait se rejouer, qui remet en scène toute une série de questions qui sont inscrites dans la théorie des passions depuis Aristote et depuis les théories des passions du XVIIe siècle, qui ressortent aujourd'hui avec une pertinence accrue, qui sont aussi centrale donc dans une réflexion contemporaine sur le positionnement du récit littéraire par rapport à un réel qu'on tente de décrire par d'autres moyens également, passions qui sont également motrices pour la critique, puisque ces catégories du ressentiment et de l'empathie sont aussi derrière toute forme de critique, qu'elle soit littéraire ou la nôtre, ou descriptive ou analytique. En tout cas, autour de ces notions, c'est une certaine théorie de l'expression et du récit, des manières de mettre en récit qui se recomposent, ouvrant d'un côté donc, sur la notion d'un manque à combler, sur un questionnement éthique et philosophique intéressant les littéraires comme les historiens, comme les philosophes, ouvrant d'un autre côté sur une forme, alors là, plus progressive, plus expérimentale, d'éducation sentimentale, je dirais. Et il y a une forme d'éducation sentimentale qui est là depuis le début, puisqu'on rouvre dans ce colloque, depuis le jeudi soir, des catégories qui sont là, qui sont des catégories évidentes, mais qui ont besoin d'être réexaminées de l'intérieur, laissant toujours ouverte, en définitive, et c'est là que ma communication n'est que descriptive, laissant toujours ouverte la question de la justice, qui n'est pas résolue, mais qui est liée profondément à ces coordonnées en train de se recomposer. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Lucie. C'est le propre, hein, encore une fois, des tables rondes conclusives c'était pas censé être conclusif, mais de ressaisir un peu tout. Et là, effectivement, ce qui est super intéressant, c'est cette ressaisie théorique et cette ressaisie aussi dans le cadre strictement littéraire d'une théorie des passions qu'on a pu envisager avant sur le plan sociologique. Et puis, en fait, on n'a pas tant que ça parlé justement d'histoire, d'héritage. Et je pense que ça résonne de ce point de vue aussi avec ta communication, du coup, sur cette question de l'héritage, de cette articulation entre présent et passé. Et je pense aussi que tu fais écho à tous ces problèmes de représentation et de réparation dont on n'a pas non plus tant parlé que ça. Donc tu ouvres aussi des chantiers nouveaux en montrant que ces chantiers s'ouvrent, encore une fois, dans plusieurs terrains différents, avec une certaine porosité des questionnements, en tout cas, entre littérature, sociologie, philosophie et historiographie, notamment donc autour des questions d'héritage de la violence historique ou d'histoire des vaincus. Donc, tu as vu ? Et par ailleurs, j'espère que tu nous expliqueras cette idée d'éducation sentimentale, parce que tu m'as j'aimerais beaucoup savoir la forme que ça pourrait prendre personnellement. Sur le plan pratique, mais voilà, je pense que tu pourras peut-être développer un peu cette idée après la communication suivante, donc celle de Solange Chavel, que je vous ai présentée tout à l'heure, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu plein de gens qui sont arrivés entre-temps et maîtres de conférences à l'Université de Poitiers, qui travaillent sur les migrants et sur la notion de frontière, et... Je disais tout à l'heure que c'était une table ronde de filles qui parlent d'émotions, donc c'était un peu étrange, mais c'est une table ronde de filles qui ont des titres très ambitieux et très théoriques, puisqu'après une communication sur rompre et rendre hommage pour répliquer à l'injustice, une autre sur du ressentiment et à l'empathie catégorie pour la représentation de l'injustice, nous avons donc maintenant carrément Solange Chavel qui va faire voir l'injustice. Tout simplement, avec un point d'interrogation et un voir, surtout, entre guillemets. Je te laisse
Merci
parler.
Merci beaucoup. Je commence moi aussi par ajouter mes remerciements aux organisateurs du colloque. Et puis, c'est vraiment agréable, on constatait ça à midi, d'avoir une interdisciplinarité qui fonctionne. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, on n'arrive pas du tout à se parler. Et là, je trouve que c'est très enrichissant. Donc, merci pour cette organisation qui permet ça. Voilà, ce que j'aimerais faire avec ce titre beaucoup trop ambitieux, c'est de reprendre une question qui a traversé les communications précédentes sur un petit peu la question épistémologique, comment est-ce qu'on a accès à l'injustice? Comment est-ce qu'on l'éprouve? Comment est-ce qu'on arrive à reconnaître cet objet-là? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être analysé par des principes, par des théories? Est-ce que c'est quelque chose que l'on sent? Est-ce que c'est quelque chose que l'on voit? Est-ce que c'est quelque chose dont on doit d'abord expérimenter en soi-même les effets. Et donc, c'est un peu mettre mes gros sabots de philosophe, donc quelque chose qui a été tissé de manière beaucoup plus fine par ces analyses littéraires, ces analyses sociologiques, sur la visibilité ou l'invisibilité de l'injustice. Donc, en fait, ce que je voudrais faire, c'est interroger un paradigme qui est, je crois, très présent dans notre vocabulaire quand on parle de l'injustice, et qui est celui, justement, de sa visibilité ou de son invisibilité, cette idée que l'injustice, normalement, se voit. Alors, bien sûr, on peut la cacher, et c'est tout le travail de certaines structures et idéologies sociales, précisément, que de s'efforcer de cacher l'injustice. Mais par définition, quelque chose que l'on cache, c'est quelque chose que l'on peut voir. On ne cache pas ce qu'on ne peut pas voir, ce qui n'est pas du domaine du visible. Quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose inversement qu'on peut révéler, qu'on peut amener dans le champ du visible. Et on confiera ce travail de révélation aux journalistes, aux philosophes, aux sociologues, à l'écrivain, aux photographes, bref, tout un nombre d'activités qui vont avoir pour tâche de faire voir, de porter à la visibilité l'injustice qui a été oubliée ou passée sous silence. Donc c'était une manière de reformuler un tout petit peu le titre du colloque pour l'interroger. On peut dire l'injustice, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit? Alors si je prolonge un peu ce paradigme, on indique que l'injustice, ça se voit, mais il nous dit aussi qu'une fois que l'injustice est vue, elle va provoquer en nous un certain type d'émotion bien spécifique. Hein, ça rejoint la communication précédente. Elle va susciter la pitié, elle va susciter la révolte, elle va susciter l'indignation, un certain nombre d'émotions bien spécifiques, bien caractéristiques, qui sont provoquées par l'injustice. Et donc, en fait, je voudrais interroger ces deux idées. La première idée, l'injustice, est de l'ordre du visible. Elle est dans le champ du visible ou dans le domaine de la visibilité. Et puis, deuxième idée, l'injustice, c'est quelque chose que l'on ressent. Quand on la voit ou quand on la vit, c'est quelque chose qui suscite des sentiments spécifiques, et notamment l'indignation. Alors, et là, de nouveau, je vais croiser des questions qu'on a évoquées ce matin. Est-ce que, justement, ces interrogations, c'est pas typiquement un jeu de philosophe, c'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, c'est intéressant, mais que quand on parle de ce genre de questions, ça frise l'indécence, quand on parle de questions qui sont de l'ordre de la justice sociale. Alors, mon excuse pour faire ça, c'est de me dire qu'en réalité, je ne pense pas que ce soit une question gratuite. Je pense que si on s'intéresse à la question de la justice de sa société, on ne va pas agir de la même manière si on pense que typiquement l'injustice, c'est quelque chose qui se voit, ou si on pense que typiquement l'injustice, c'est quelque chose qui doit d'abord s'analyser, et que l'image, la visibilité, ne peut venir qu'après un travail de critique ou de description, ou en tout cas un travail d'autre chose qui est de l'autre ordre que l'ordre du vécu. Et donc, la thèse que j'aimerais essayer de défendre, c'est qu'à mon avis, précisément, l'injustice n'est pas toujours, pas dans tous les cas, quelque chose qui se voit, que l'injustice n'est pas toujours, pas dans tous les cas, quelque chose qui suscite l'indignation, et qu'on doit donc se méfier de ce qu'on a appelé les sentiments d'injustice. Et donc, je vais commencer par parler. Alors, pour commencer, je voudrais commencer à donner un peu de consistance à cette thèse-là, à cette thèse selon laquelle l'injustice, c'est quelque chose qui se voit et qui provoque des sentiments d'injustice, parce que je crois que c'est un paradigme qui est très séduisant. Et puis retracer un peu quelques hypothèses sur lesquelles ça repose. Alors, je vais prendre un exemple, qui est un exemple très célèbre, que j'emprunte aux Confessions de Rousseau. Vous l'avez peut-être en tête, c'est l'épisode du peigne cassé, un morceau d'anthologie. Rousseau, petit enfant, donc Jean-Jacques, est chez le pasteur Lambercier, et un jour, il se fait accuser, à tort, d'avoir cassé le peigne de mademoiselle Lambercier. Il nie farouchement, mais les adultes ne le croient pas, et donc il a ce sentiment qu'on a tous eu, on a tous eu cette expérience. Petit enfant, pour une fois, on n'avait rien fait, et on se fait accuser quand même. Doux sentiment terrible d'injustice. Alors, je vous lis le paragraphe, parce qu'il est merveilleusement écrit, et puis je trouve qu'il retrace bien ce que j'ai en tête ici. Ce premier sentiment de la violence et de l'injustice est resté si profondément gravé dans mon âme que toutes les idées qui s'y rapportent me rendent ma première émotion. Et ce sentiment, relatif à moi dans son origine, a pris une telle consistance en lui-même et s'est tellement détaché de tout intérêt personnel que mon cœur s'enflamme au spectacle ou au récit de toute action injuste, quel qu'en soit l'objet et quelque lieu qu'elle se commette, comme si les faits retombaient sur moi. Quand je lis les cruautés d'un tyran féroce, les subtiles noirceurs d'un fourbe de prêtre, je partirais volontiers pour aller poignarder ces misérables, dussé-je 100 fois périr. Je me suis souvent mis en nage à poursuivre à la course ou à coups de pierre un coq, une vache, un chien, un animal que je voyais en tourmenter un autre uniquement parce qu'il se sentait le plus fort. Alors j'arrête ici la citation. C'est très clair, on s'y reconnaît, l'injustice provoque un sentiment d'indignation, de révolte. Ce sentiment est puissant, il est vivace. Il concerne spécifiquement un type de situation, lorsqu'un être plus fort en persécute un plus faible, et il s'applique sans discrimination aux êtres humains et aux animaux. Vous notez le passage du prêtre au coq, et aux situations privées aussi bien qu'aux situations politiques. On vient de commenter le peigne cassé, et on va passer au tyran féroce, donc la figure de l'injustice politique. Alors je crois que c'est un paradigme de l'injustice qui est séduisant, et dont, à mon avis, il nourrit quand même une bonne partie de la manière dont on conçoit la lutte contre l'injustice en société. Et je pense qu'une partie de la séduction qui exerce cette image, c'est qu'il a quelque chose de réconfortant. Ça donne une vision, pour le dire brutalement, héroïque, de celui qui reconnaît, puis qui combat l'injustice au péril de sa vie. Et il s'accompagne, et ça également c'est réconfortant, ça s'accompagne d'un sentiment d'inébranlable certitude. L'injustice se voit, elle se reconnaît immédiatement malgré les mensonges et les perfidies des puissants. Alors pour que cette vision-là soit correcte, il faut d'abord accepter l'idée que le sentiment d'injustice puisse être effectivement un guide fiable, puisse être quelque chose qui nous indique vraiment les moments où une injustice se produit. Et donc, pour que ce paradigme soit valide, il faut accepter une thèse philosophique qui consiste à dire que les émotions et les sentiments ne sont pas seulement des vagues agitations, mais qu'elles ont également une valeur cognitive. Elles nous apportent une information sur le monde. Alors, je vais m'appuyer ici un tout petit peu sur un des auteurs qui, à mon avis, a défendu cette thèse-là avec beaucoup de subtilité pour voir justement jusqu'où la thèse va et jusqu'où on peut la pousser. Donc je vais m'appuyer sur une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum et qui est une de celles qui, dans la philosophie contemporaine, a beaucoup défendu cette idée que les émotions, ce n'est pas seulement des instincts aveugles, mais ça a un contenu de connaissance sur le monde. Alors, elle a un argument très fouillé sur lequel je vais passer rapidement. Mais l'idée, c'est que c'est un argument en plusieurs étapes. Les êtres humains sont des êtres vulnérables, dans le sens précis où notre bonheur ou notre malheur dépend de choses que nous ne maîtrisons pas. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire que les êtres humains dépendent en particulier d'un corps. Et donc, on sent l'ancrage aristotélicien qui se rappelle ici. Et la conclusion, ça consiste à dire que les émotions, c'est quoi ? C'est les réactions de cet être à la fois qui a un corps et un esprit, les réactions de cet être à la vulnérabilité du monde, à la vulnérabilité, pardon, de lui-même face au monde. Donc, on a une émotion quand le monde nous menace ou au contraire, le monde nous apporte un espoir qu'on ne maîtrise pas, précisément. Et donc, c'est pour ça que Martha Nussbaum dit que les émotions, oui, elles ont une valeur cognitive et notamment une valeur importante quand on réfléchit en morale ou en politique. Mais, et là où sa thèse m'intéresse particulièrement, c'est qu'elle va souligner que tous les sentiments, toutes les émotions ne sont pas des guides aussi fiables. Et notamment, elle a consacré tout un livre à s'interroger sur la honte et le dégoût et la manière dont on va manipuler dans l'espace politique la honte et le dégoût, en disant que c'est des émotions qui sont très suspectes et que la plupart du temps, c'est des guides moraux dont il faut se méfier. Et je crois qu'on pourrait, sans trop la trahir, faire un peu la même analyse à propos du sentiment d'injustice, en disant qu'en réalité, c'est un sentiment dont il faut la plupart du temps se méfier. Alors pourquoi ? Pourquoi cette méfiance ? D'abord parce que, et on l'a évoqué plusieurs fois au cours de la matinée, le sentiment d'injustice n'est pas toujours provoqué par l'injustice réelle. Pas la peine de chercher beaucoup d'exemples, j'en donnerai quelques-uns. On connaît tous des gens qui sont indignés par leur propre situation, alors que ce n'est pas nécessairement une injustice politique, je ne m'attendrai pas là-dessus. Mais inversement, et c'est intéressant aussi, toute injustice ne suscite pas l'indignation. Il y a des injustices qui ne suscitent rien. Donc je voudrais m'intéresser à ça. D'abord, chez celui qui observe l'injustice. On peut être indigné par une injustice, mais c'est de l'ordre de la banalité ce que je veux dire. On peut être aussi totalement indifférent. On peut être paralysé aussi. On peut être complètement dépassé par ce qu'on voit, mais on peut être indifférent. Et là, du nouveau, je vais me rapporter à Rousseau. Je vais de nouveau citer Rousseau qui indiquait une des racines qui fait qu'on peut être indifférent à l'injustice. On peut être indifférent parce qu'on ne s'identifie pas. Ce matin, je ne sais plus qui évoquait, je crois que c'est Patrick dans une question, il disait, Peter Singer, le philosophe, a insisté sur le fait que pour qu'on ait des émotions d'injustice, il faut un monde, il faut le sentiment qu'on fasse un. Et effectivement, c'est un peu dans cette direction que va Rousseau, et je cite l'Émile, quand il dit, passage de nouveau très célèbre, « Pourquoi les rois sont-ils sans pitié pour leurs sujets, c'est qu'ils comptent de n'être jamais hommes. Pourquoi les riches sont-ils si durs pour les pauvres? C'est qu'ils n'ont pas peur de le devenir. Pourquoi la noblesse a-t-elle un si grand mépris pour le peuple? C'est qu'un noble ne sera jamais roturier. Alors évidemment, pas de sentiment ressenti face à une injustice. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien noter ici que le fait même que la société soit inégale, le fait même qu'il y ait des nobles et des roturiers, des privilégiés et d'autres qui ne le sont pas, le fait même que la société soit inégale a pour conséquence que l'injustice n'est pas ressentie par ceux qui la commettent. Donc évidemment, là, on a un cercle qui fait que les injustices les plus profondément inscrites ne sont précisément pas celles qui provoquent des sentiments d'indignation. Maintenant, chez ceux qui subissent l'injustice, Rousseau, dans l'extrait que je citais au début, ressent une indignation. Il est révolté, on l'a puni injustement, colère, on s'enflamme. La plupart du temps, et là je pense que la communication que Inès a présentée me donne un excellent exemple, la plupart du temps l'injustice ça provoque d'abord la honte, ça provoque d'abord le fait de ne pas se situer, ne pas arriver à s'intégrer, à intégrer son sentiment dans ce qui est recevable socialement. Ce que tu commentais du roman de Zahra Rahmani illustre ça. L'injustice subie provoque d'abord un mal-être, une honte, plus qu'un sentiment d'injustice. Et le sentiment d'injustice, en fait, est une conquête. Hein, une conquête qui demande un certain travail. Je vais citer comme deuxième preuve rapide à l'appui de cette idée, cette fois, de nouveau, des choses qu'on a évoquées ce matin. On a évoqué les travaux rapidement de l'économiste Amartya Sen. Avec Jean Drèze, il a mené des études à propos d'une famine qui s'était passée en Inde, plus précisément dans le Bengale, en 1943. Et il a fait quelque chose de tout simple, il a analysé deux séries de données. La première série de données, c'était des faits objectifs sur l'état de santé des veufs et des veuves après la famine. Il a pris des gens qui avaient perdu leur conjoint, et on regardait leur état de santé. Et donc on avait un certain nombre de données médicales qui montraient que les veuves étaient en moins bon état de santé, médicalement parlant, que les hommes. Et puis ensuite, la deuxième série de données, c'est les indicateurs subjectifs. On est allé voir les gens, on leur a demandé comment est-ce que vous jugez votre état de santé. Et là, les situations s'inversent. Les veufs se plaignaient beaucoup plus que les veuves. Ça, c'est un exemple typique, hein, très, très classique de ce que Amartya Sen appelle des inégalités enracinées, des inégalités qui sont tellement inscrites dans les attentes sociales que vous adaptez vos attentes et que vous considérez que finalement vous n'êtes pas si mal loti. Et là encore, on a ce phénomène tout à fait perturbant que les injustices les plus profondes, les injustices qui sont précisément les plus ancrées, ne sont pas celles qui provoquent des sentiments d'indignation ou d'injustice chez ceux qui les subissent comme chez ceux qui contribuent à les perpétuer. Donc ça, c'était, disons, le premier point de mon argumentation. Une première note de défiance, pardon. Le sentiment d'injustice, l'indignation n'est pas souvent un bon guide. Elle n'est pas toujours suscitée par les situations d'injustice. Et puis le deuxième temps, c'est de dire qu'on a aussi du mal à reconnaître une situation comme une situation d'injustice. C'est des situations qui sont dures à qualifier. Alors, quand je m'ai commencé à préparer cette communication sur le sentiment d'injustice, j'ai fait le test Google pour me demander où est-ce que cette expression apparaissait le plus. À propos de quoi est-ce qu'on parle le plus de sentiments d'injustice? Alors peut-être que vous y avez déjà pensé, moi j'y avais pas pensé quand j'ai... Mais le résultat est évident, en fait, c'est le sport dans lequel on parle le plus de sentiments d'injustice. La situation d'injustice par excellence, c'est votre équipe, elle devait gagner et elle n'a pas gagné. Et ça, c'est affreux. Alors vous avez différents types de situations. Votre équipe n'a pas gagné parce que le ballon a tapé dans la barre 3 fois de suite. Bon, ça... Ça, c'est une première cas. C'est pas vraiment de l'injustice, c'est de la malchance. Bon, je la laisse de côté, même si on a tendance à faire un amalgame. La deuxième situation, et c'est celle-là que je vais m'intéresser parce qu'il y a de la volonté humaine, c'est qu'il y avait une main dans la surface, l'arbitre l'a pas vue. Voilà. Ça, c'est la deuxième situation. Alors, pourquoi ça m'intéresse et pourquoi, à mon avis, c'est pas juste anecdotique, ce sentiment d'injustice qui revient là, pour parler de ce genre de situation? C'est un cas typique d'injustice et encore une fois qui a paradoxalement quelque chose de réconfortant parce que d'abord il y a des règles qui sont claires et qui sont partagées de l'activité à laquelle on est en train de se livrer. On joue au foot et une main dans la surface, pénalty. Bon. Deuxièmement, on a une personne qui est en position d'autorité et de responsabilité. C'est l'arbitre qui doit siffler, s'il ne le fait pas, c'est pas bien et personne ne peut le faire à sa place. Et puis, troisièmement, la règle a été clairement violée. On avait un cas, on repasse les images, et oui, il y avait bien une main. Donc, on a un cas qui est reconnaissable. On peut dire que la règle a été violée. Et donc, l'hypothèse que j'aimerais bien soumettre, c'est que c'est une conception qui est rassurante d'une injustice parce qu'elle appartient au champ du visible, elle est clairement identifiable et elle est incoupable. Mais c'est une situation qui est à la fois paradigmatique et qui pourtant correspond très peu au cas d'injustice sociale qu'on vit réellement. Pourquoi est-ce qu'elle est peu adaptée ? Parce que la plupart du temps, les injustices sociales nous placent face à des situations où personne n'est clairement en position d'autorité. Il n'y a personne qu'on peut clairement accuser comme étant le coupable ou le responsable de la situation. Et puis, et où, les deux peuvent s'accumuler, parce que les règles auxquelles on accepte de jouer ne sont pas toujours nettement définies. Alors, je vais prendre juste deux exemples très rapidement, je ne vais pas me prolonger là-dessus, pour illustrer ces deux points. Et là, je vais rencontrer le problème qu'on soulignait de devoir prendre des exemples particuliers pour parler de questions qui sont l'ordre du conceptuel et de l'universel. Mon premier point, c'est pour illustrer le fait que les situations sont peu clairement définies. C'est un exemple que j'illustre que j'emprunte à une situation qui m'avait frappée de deux collègues qui sont historiens et donc qui font travailler parfois des équipes locales au Pakistan. Et un jour, donc je vous raconte l'histoire comme elle m'est présentée, ils font travailler un enfant de 7 ans. Bon, pour nous, c'est le paradigme de l'injustice. On ne fait pas travailler des enfants. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Étape suivante, oui, mais on fait travailler cet enfant en question parce que le père est malade et la famille est venue vous supplier de ne pas lui couper ses revenus. Et en réalité, le faire travailler et le payer le plein tarif, c'est déjà une victoire parce que les autres ouvriers vous ont demandé de le payer demi-tarif. C'est un enfant, il ne fait pas le même travail que les adultes et ils considèrent que c'est une injustice à leur égard de le payer au même tarif. Alors, c'est un exemple classique, en un sens, tristement classique, de conflit de valeurs. On est dans un monde socialement complexe, il y a des valeurs contradictoires. Et du coup, se conduire de manière juste et parfois, de manière totalement juste et parfois impossible. Mais à mon avis, c'est un cas typique où on a une injustice sociale qui est dure à voir parce qu'on ne comprend pas bien où ça commence à sortir des rails. Où vraiment dans la structure sociale se produit l'injustice. Donc on a du mal à la voir. Puis le deuxième exemple, on a cité tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est toi Raphaël qui citait Walker Evans, oui bien sûr, les photos de la crise de 1929 et des États-Unis. Là aussi on a un cas, tu citais très bien ce sentiment de visibilité de l'injustice, mais d'impuissance. Pourquoi ? Parce que de nouveau il n'y a pas de coupable facile à désigner. Il y a un système dont on considère qu'il crée des situations de détresse, mais on a du mal à désigner un coupable comme on avait notre arbitre dans mon cas trivial du match de foot. Et donc, ce que je viens de retrouver ici par un autre chemin, c'est cette idée qu'avait déjà affirmé John Rawls, donc le grand théoricien de la justice politique, qui disait qu'au fond, la justice, c'est d'abord une vertu des institutions, ou l'injustice, inversement, est un vice des institutions, et qu'on a tendance à appliquer à cette question institutionnelle des critères qui marchent très bien, d'abord pour les questions personnelles. On a tendance à transposer nos sentiments d'injustice personnelle contre une personne identifiable aux questions de systèmes sociaux. Et là, nos concepts commencent à ne plus marcher tout à fait bien. Alors, je vais conclure très rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que le paradigme de la visibilité ou de l'invisibilité de la justice ne fonctionne, à mon avis, que très partiellement. Les injustices qui sont les plus graves ne provoquent ni culpabilité de la part des responsables, ni indignation de la part des victimes et des spectateurs. Et donc la plupart des injustices ne sont pas immédiatement, ne sont pas directement du domaine du visible. L'injustice, c'est une notion systémique. Autrement dit, la justice ne se voit pas immédiatement, elle ne s'éprouve pas immédiatement. Elle doit d'abord se penser. Et donc c'est un peu une thèse sur la manière dont on doit reconnaître l'injustice. On la reconnaît, de la manière aride, par une réflexion sur les principes, sur les systèmes, et sur les inégalités qui sont produites, pas d'abord par une vision ou pas d'abord par un sentiment. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Merci.
Merci pour cette communication qui à la fois ressaisit toute une série de questions et en ouvre encore beaucoup, beaucoup. Enfin, il nous faudrait beaucoup de jours pour y répondre, je pense. J'ai plein de questions, mais je les réserve pour tout à l'heure. On va écouter tout de suite la dernière communication avant, j'espère, un débat qui sera nourri Marie Martin, donc, qui animait hier soir un débat autour du film de Sylvain Georges, qu'il repose en révolte, et qui va nous parler maintenant du cinéma militant. Alors je recherche là aussi encore un...
J'ai changé. Ah bon. Le titre est beaucoup moins ambitieux maintenant. Ça s'appelle « À l'épreuve du feu ». C'est juste une métaphore. Ah.
D'accord. Bon, très bien. Merci, Marie.
Donc, au moins, c'est clair. Non, mais j'avoue que j'ai revu mes prétentions à la baisse, et notamment en termes d'horizon conceptuel ressaisi. Là, c'est une communication qui permettra de sortir en douceur des grands problèmes et de repartir d'un tout petit cas. Alors, ce qui m'avait, ce que je voulais faire quand j'ai proposé au début ce sujet, c'était avant tout de faire, d'essayer de creuser le lien entre la stratégie politique et l'esthétique, et dans son rapport problématique au réel et à question de l'efficacité sur le réel, puisque, bien sûr, Jacques Rancière a consacré des pages définitives là-dessus, et malgré tout, qui me frustrait parce que je crois que j'avais pas pu dépasser bien. Ma mauvaise conscience, qui est sans doute la même que celle de tous. Et donc, je voulais y revenir, et je disais que grâce à l'exemple et au cas emblématique du cinéma de Sylvain Georges, qui à la fois documente le réel, mais documente aussi des actes de militance, de lutte, d'intervention dans le réel, il y avait peut-être une voie possible de penser. Donc, je vais vous soumettre ces analyses. Je suis plus sûre qu'il y ait une troisième voie, mais bon, c'est pas grave. L'important, ce sont les images de Sylvain Georges que certains d'entre vous ont vues hier. Donc, Sylvain Georges, pour le resituer très brièvement, pour ne pas faire doublon, est l'auteur d'une œuvre qui affronte sans relâche la question de l'immigration dite irrégulière, notamment le cas des sans-papiers en transit que la France a d'abord parqué au début des années 2000 à Sangatte et qui ensuite ont migré de façon beaucoup plus restreinte à Calais. Le cinéaste qui était parti en 2007 pour filmer à Calais 3 mois est resté 3 ans et a côtoyé de très près des exilés afghans, iraniens, kurdes, africains, et en a tiré depuis, enfin, de tout ce matériel, de tous ces rushs de centaines d'heures accumulées, 6 films, 3 courts-métrages qui s'appellent « Ils nous tueront tous »,« No Border » et « Les nuées ». Que vous avez vu hier, et 3 longs-métrages. Le premier, L'impossible, pages arrachées, en 2009. Le second, qu'il repose en révolte des figures de guerre, en 2010, que vous avez vu hier. Et le dernier, en date, Les éclats, sous-titré Là, ma gueule, ma révolte, mon nom. Donc, si le cinéma de Sylvain Georges semble ainsi obsédé par les migrants de Calais, et plus largement par la question des politiques migratoires européennes et donc l'accueil des sans-papiers, c'est bien parce qu'il confronte tout citoyen à la dimension inégalitaire de leur vie, qui tient au hasard d'une naissance ici ou ailleurs, en démocratie ou dans un pays en proie à la guerre ou à la misère. Cette inégalité contingente est une question complexe adressée à la conscience contemporaine, écartelée entre, d'une part, une vision humaniste strictement égalitaire, par exemple la Déclaration des droits de l'homme, mais d'autre part, enfin, cette vision humaniste est souvent taxée d'angélisme, et d'autre part, les exigences de ce que Rancière nomme la politique, au féminin, donc cette science de la police, de l'administration, qui définit des places et des hiérarchies dans l'espace social. Il y a là un dilemme apparemment insoluble, en tout cas pour moi, auquel ne peut se superposer la partition idéologique, par exemple, de la gauche et de la droite. On se souvient, j'imagine tous, d'un Michel Rocard déclarant « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », ou encore, comme le rappelle un militant à la fin d'une des premières versions de « Qu'il repose en révolte », que les centres de rétention ont été refondés ou remis en œuvre par Pierre Joxe au début de l'ère Mitterrand. Donc, face à ce qui ressemble à une aporie, Sylvain Georges met en place un dispositif d'image qui, sans commentaires prépensés, sans voix off intempestive, sans pathos, sans solution naïve ni conseil de gouvernement, mais avec simplement les moyens de l'esthétique et du travail formel, ce qu'on peut appeler le travail du film, se veut à la fois un document subjectif qui réaffirme, dans ses procédures de sens, notre commune égalité, et aussi un lieu de résistance démontrant que les termes du débat sont mal posés, ou du moins que le problème des migrants, des sans-papiers, est un problème construit par la politique. Donc, au lieu d'un pessimisme ratifiant de fait les inégalités, les films de Sylvain Georges rappellent qu'il y a place pour la résistance, qu'elle passe par le spectacle de l'égalité, ou bien qu'elles doivent au contraire revendiquer un écart. ou qu'elle se tienne, troisième voie de la dialectique que vous voyez venir, bien sûr, dans un entre-deux maintenu et fugace. Donc tout d'abord, ce que j'appelle les stratégies de l'égalité. Il y a donc dans les images que nous offre Sylvain Georges au moins deux champs où travaille une pensée de l'égalité comme force politique et possibilité de résistance. Alors je vous l'ai dit d'emblée, et puis j'y reviendrai un peu avec quelques exemples. D'une part, le dispositif spectatoriel mis en place dans chaque film, et d'autre part, certains épisodes composés ou offerts par les migrants eux-mêmes. Donc du côté du dispositif, les films revendiquent un spectateur qui n'ait besoin d'aucune compétence pour appréhender ces images, mais d'un spectateur qui mette en œuvre l'égalité de la perception, enfin le caractère égalitaire de la perception, de la sensation, de l'émotion. La philosophie de Jacques Rancière, qui est donc, comme je vous le répète, l'un des horizons très conscients de la pratique d'image de Sylvain Georges, qui est par ailleurs philosophe, c'est de dire que le politique, cette fois au masculin, en abolissant les écarts, est le seul lieu d'une égalité réelle, active et productive, au sens où, notamment, le vote se fonde seul dans l'espace social, sur l'absence de compétences particulières. N'importe qui peut voter, quel que soit... Donc si ce lieu du politique est le lieu de l'écart, l'art aussi peut être parfois, sous certaines procédures, dans certains usages, ce lieu, cet espace d'une reconfiguration des usages du visible qui laisse à chacun le loisir de les apprécier à nouveau frais, loin par exemple des stratégies télévisuelles dominantes ou des choses déjà imposées à la pensée, des préjugés. Donc, dans ce que les images des films de Sylvain Georges peuvent avoir parfois d'étrange, de déstabilisant, par exemple les plans muets, les paysages vides, les traces obtuses, tout ça, on peut, dans tous ces éléments, on peut voir la trame d'un dispositif émancipateur. Le spectateur n'est pas guidé dans ce qu'il doit voir ou comprendre, et parfois peut-être, il y a des cas d'incompréhension d'ailleurs, mais c'est le risque du dispositif même. Et ça évite d'aplatir, de nier la complexité d'un lieu et d'une situation comme celle de la jungle de Calais. Chacun, quelles que soient ses connaissances préalables, est libre de réfléchir ou de rêver. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une procédure cognitive face à un film. En tout cas, de ressentir des choses le long de ces longues plages d'images, de ces séquences pas forcément chronologiques, de ces moments suspendus qui sont parfois traversés par un éclair rouge ou le son déchirant d'une unique note de musique. Ça, c'est par exemple le dispositif formel de l'impossible. Donc la sidération et l'étrangeté sont un des moyens favoris de Sylvain Georges pour briser les habitudes et donner à réfléchir. Bien plus, la manière qu'il a de travailler met en pratique de manière profonde, je crois, une certaine égalité. Il filme tout, ce qui ne veut pas dire qu'il filme n'importe comment. Rien n'est a priori indigne de figurer dans ses films. Trois longs métrages, donc, comme je l'ai rappelé en introduction, témoignent de la richesse descriptive du matériel recueilli. Des séquences de paroles, par exemple, à la fin des éclats, le dernier film en date, un Afghan livre une analyse géopolitique du mécanisme de vase communicant entre l'exploitation des richesses de son pays sous couvert de guerre idéologique et l'exil des populations opprimées, renvoyant l'Occident à ses propres contradictions. Mais au chapitre des paroles, il y avait hier des exemples de longs moments où les migrants s'expriment, et s'expriment, je pense, à rebours peut-être des idées reçues. Mais vous avez aussi des moments, donc, dans cette richesse descriptive du matériel recueilli par Sylvain Georges, l'organisation du quotidien, les tentatives de passage en Angleterre, tout un champ phénoménal de la répétition, de l'usure, du temps qui ne passe pas forcément et qui trouve quand même lieu de citer dans le film parce qu'il fait la matière même du sensible que auxquels sont confrontés les migrants et celui qui les filme. Vous avez aussi, bien sûr, une grande part accordée aux déchets, aux ruines, aux vestiges obtus d'une vie précaire, mais aussi, tout aussi bien, des moments de contemplation de la beauté des phénomènes naturels, ou des visages ou des corps des migrants. Ainsi, le plus humble a le même droit à figurer dans un film que le plus puissant. Une boîte de conserve vide aussi bien que le ministre Éric Besson. Je ne sais pas qui est le plus humble ou le plus puissant dans l'affaire. Le plus beau n'a pas à être interdit de séjour sous prétexte que les conditions de vie dans la jungle sont sordides, par exemple. Donc, voilà un premier champ, et qui se subdivise encore d'une dernière façon, hein, je crois, concernant la question du régime d'identification proposé par les films. Il ne s'agit pas d'un régime d'identification classique, au sens où les migrants ne sont pas forcément nommés, d'ailleurs je crois qu'ils ne le sont quasiment jamais, leurs propos ne sont pas toujours traduits, en tout cas quand ils ne s'expriment pas en anglais, Sylvain Georges ne parlant pas leur langue, ce n'est pas traduit, ça fait partie de la résistance du réel et de quelque chose à laquelle on n'a pas accès. Et je voudrais citer un exemple, un cas qui m'a donné à réfléchir, parce que je me suis moi-même fait prendre au piège de ce dispositif, donc c'est quand même quelque chose de vécu, qui donnera un exemple peut-être plus concret de cette histoire de régime d'identification et de dispositif ouvert du film. Dans L'impossible, pages arrachées, il y a un passage muet parce qu'il est tourné en Super 8 et en couleur, et le Super 8 ne prend pas le son en même temps que l'image. Ça rend sensible, je crois, les différents niveaux de signification. Donc on voit un jeune homme errer, seul, dans un terrain vague de Calais, assez longuement, dans une espèce de ballet hypnotique avec la caméra, pendant qu'une voix off, dans un anglais approximatif matiné d'italien, dénonce la vita brutta, la dog life qu'il mène à Calais. Il ajoute, enfin la voix off ajoute, puisque les paroles ne sont pas synchronisées avec les images qu'on voit, l'homme qu'on voit ne parle pas. Donc la voix ajoute, conquérant, que rien ne pourra l'arrêter, je vous traduis, puisqu'il dit « nothing can stop me ». À cette affirmation répétée donc, et désynchronisée de l'action, succède un carton évoquant l'assassinat de Rayula, et ça expliquera peut-être à certains d'entre vous qui ont vu le film pourquoi donc Il repose en révolte revient périodiquement ce nom dit par Valérie Dréville, la voix du dehors de Rayula. Bon. Et donc le carton de l'impossible donne, avant même qu'Il repose en révolte, une clé évoquant donc cet assassinat de Rayula par des passeurs alors qu'il allait enfin rejoindre l'Angleterre. Les cartons chez Sylvain Georges sont assez rares, mais quand ils sont présents, ils sont assez longs, soit des poèmes, soit une longue explication. Et là, le pathétique de la situation de Rayula s'est souligné parce qu'il avait rêvé juste avant sa mort qu'il allait mourir, qu'il ne pourrait pas retrouver l'Angleterre. Donc ce que la majorité, le montage donc incite à identifier le jeune homme des images au destin tragique de Rayula et à reconsidérer la séquence comme le tombeau du jeune Afghan, puisque c'est vraiment juste après. Et je crois que c'est ce que fait la majorité des spectateurs, en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'ai tendance à imaginer que donc, mon cas reflète une espèce de forme prévue par le film d'une certaine manière. Donc le film laisse faire ça, et peut-être même le prévoit. Ça met en œuvre un premier niveau d'égalité qui ne rend pas le film supérieur à son public, qui n'attend pas de lui donc, une nouvelle fois un savoir préalable, et qui prend le risque justement que les choses soient mises à un certain niveau d'égalité. Le second niveau où travaille le dispositif dans cet exemple, c'est que... qui suppose cette fois un savoir externe, donc c'est pour ça que je parle de deuxième niveau, de deuxième couche du dispositif, c'est que les images en fait montrent un jeune érythréen qui s'appelle Temesgen, qu'on retrouvera dans pas mal de films, enfin je finirai là-dessus, alors que la présence de Rayula dans les films de Sylvain Georges n'est jamais autrement attestée que donc comme évocation, comme fantôme, comme voix, comme présence, absence. Et donc ce mécanisme de montage qui peut-être peut choquer, mais il me semble, incarne en droit et en fait l'égalité des migrants au sens où le même sort les menace tous et d'une certaine manière le caractère interchangeable que démontre Sylvain Georges est mis en œuvre dans la façon dont ils sont traités. Donc cette dernière constatation de l'interchangeabilité, aux yeux en tout cas des Européens, permet d'en arriver à la mise en œuvre, cette fois dans le réel même, par les exilés eux-mêmes, de ce qu'on pourrait qualifier de stratégie de l'égalité. Donc la scène, bien sûr, la plus emblématique, c'est celle que vous avez vue hier, celle du finger burning, où les migrants assument l'automutilation et la négation de leur identité singulière pour résister au fichage policier, qui entend donc leur interdire de demander l'asile dans d'autres pays que ceux où ils ont été fichés. Dans Les éclats, la scène revient, mais cette fois très rapide, davantage centrée sur les explications d'un migrant qui révèle utiliser aussi parfois des produits chimiques, qui déplore la perte de ses empreintes digitales, car il craint justement de ne pouvoir demander l'asile en Angleterre, sans ce gage de son individualité. Dans Les éclats, la perspective est renversée, et cette fois, la perte de l'identité peut être une menace pour ne pas avoir le droit d'asile. Enfin, le son dans Les éclats laisse transparaître cette fois la douleur de cette procédure d'annihilation, parce que j'imagine que ça ne va pas sans mal de se brûler, de se scarifier, de s'arracher la peau des doigts à coups de produits chimiques. Mais ça permet, cette répétition de la scène sous une tonalité différente dans Les éclats, permet à contrario de vraiment prendre conscience de la tonalité même de la séquence dans qui il repose en révolte, c'est-à-dire aucun dolorisme, aucun apitoiement pour les migrants qui se mutilent le bout des doigts. L'émotion qui règne, à mon avis, est plutôt l'indignation et l'admiration, surtout pour l'ingéniosité et le courage des migrants. La focalisation sur le foyer, le feu, enfin, et le clou qui brûle, et les mains, avec un son simplement hors champ, font du finger burning un acte de résistance autant plastique que politique, sans considération donc pour la douleur, mais pour la stratégie qui consiste à renverser une faiblesse en force et à lutter sur le terrain même de l'identité et de l'égalité qu'on leur dénie. Donc, j'en viens au deuxième mouvement de cette démonstration qui montre un mouvement analogue finalement, mais cette fois ayant rapport aux inégalités, un déplacement stratégique qui, pour ne plus constater simplement les inégalités que cristallise le sort des exilés, essaye d'en exposer la portée critique, et ce à nouveau, en tout cas pour la clarté de l'exposé, que je vous expose de deux façons complémentaires. Donc, d'une part, le non-lieu qu'est la jungle pourrait révéler l'envers de l'Occident, le refoulé de la société occidentale, et dans ce cas, l'inégalité est une certaine forme d'altérité. Et deuxièmement, la saison en enfer vécue par les migrants en butte à la police spécifie cette fois l'inégalité en dualité et opposition, mais ce qui permet d'ouvrir l'espace d'une lutte. Donc je reviens à la première idée du refoulement, enfin du retour du refoulé dans la jungle de Calais. Tous les longs métrages de Sylvain Georges déploient sur les traces des migrants de Calais les vestiges de la société occidentale. Les innombrables vêtements abandonnés sur les grillages ou dans les arbres dessinent à la fois le devenir fantôme de ces populations déplacées, mais aussi le gaspillage inhérent à la surconsommation contemporaine. Au détour d'un plan, éclatent, sur le mode du décalage ironique, les différences entre les charters de sans-papiers et la démocratisation des vols touristiques à prix réduit. Alors ça, c'était dans une première version de Qui repose en révolte, où, à la toute fin, un charter prévu pour ceux qui avaient été pris était confronté à une affiche de Ryanair, qui promet de voyager en Europe à prix très, très réduit. On a aussi, bien sûr, ce que vous avez vu, la course au jumelage européen, Calais étant jumelé avec plein de villes, belle ouverture écuménique et fermant ses frontières. Donc ça, ce sont des petits exemples, j'aurais pu multiplier, mais les sacs poubelles, les palettes de supermarchés, les panneaux publicitaires défraîchis, tout ça, c'est recyclé par les migrants pour construire leur camp, et qui tend de fait un étrange miroir aux démocrates occidentaux. Dans cet agrégat des reliefs du capitalisme, survit un peuple qui fait feu de tout bois, filmé par un cinéaste qui entend restituer le poids de cette expérience et non la traiter sous forme d'images télévisuelles à consommer et oublier. Alors, il y a sans doute deux autres aspects de cet envers du décor occidental, ou de ce modèle d'altérité proposé par les migrants, celui du rapport aux animaux, puisque les migrants s'identifient eux-mêmes à l'injure potentiel qui en fait des bêtes, et puisqu'ils parlent souvent d'eux-mêmes, donc menant une dog life, ou alors quand le migrant montre la stratégie pour monter dans les camions, il souligne aussi, enfin il parle de chiens et on ne sait pas trop pourquoi, et en fait, juste derrière le grillage du camp, il y a un autre camp qui est de rééducation des chiens, Royal Canin. Donc il y a ce mécanisme reprendre à son compte l'injure, et en même temps ça permet quelques moments très, très fascinants dans le film où les migrants sont confrontés à des vrais animaux, et notamment par exemple la scène du baleineau, enfin, je crois que c'est un baleineau échoué sur la plage, pris au piège, ou les mouettes qui dépasse passe par-dessus les grillages. Et un autre aspect serait peut-être de l'envers de l'Occident, serait les moments de convivialité qui ne manquent pas dans les films de Sylvain Georges, où les migrants sont montrés dans des situations de partage, de temps laissé au champ, au repas, au lieu peut-être de l'ultramoderne solitude de la vision occidentale. Alors, bon, j'imagine bien que cette vision-là, enfin cette analyse que je propose, puisque ce n'est pas forcément la vision de Sylvain Georges, c'est jamais que mon analyse, est sans doute un peu manichéenne. Mais il me semble qu'elle découle d'un choix de la part de Sylvain Georges de vouloir quand même sans cesse, en plus de montrer les migrants, montrer aussi possibles ennemis, mais en tout cas leurs autres, et donc de les proposer dans une dualité, dans un affrontement. Donc on a aussi les policiers qui les traquent, et deuxième mouvement de la dualité, les Français qui les aident, et par exemple le personnage de Maman, enfin, que les Afghans de la jungle surnomment Maman, par exemple, et qui fait un bouclier de son corps pour empêcher la déportation de ce qu'elle appelle un enfant, ce qui est effectivement un mineur. Donc la portée documentaire ne va pas sans le spectacle des luttes qui renversent l'inégalité en dualité. Ce sont, par exemple, dans la troisième partie de L'impossible, page d'arrachée, troisième partie qui est sous-titrée « Je me suis armée contre ta justice », les affrontements du 19 mars 2009, où, place de la Nation, des manifestants se sont opposés aux rangées de CRS casqués et ont fini par être arrêtés et souvent condamnés. Donc dans ce film, L'impossible, qui est vraiment mis sous la lumière de la saison en enfer rimbaldienne, le mécanisme policier et politique de criminalisation des mouvements sociaux est pris au mot par Sylvain Georges, qui revendique, comme Rimbaud à la fin de sa matinée d'ivresse, le temps des assassins. Et donc la dualité est poussée à son comble pour récupérer sa violence et sa productivité en pointant les oppositions entre les camps de ceux qui peuvent dire, comme le poète, « je suis une bête, je suis un nègre » et le reste, les faux nègres. Je finis au moins sur la dualité, et j'en viens quand même à la dernière partie, à l'ouverture de la dialectique et de ces figures précaires, mais maintenues d'un certain optimisme de volonté. Donc, la double postulation dont j'ai parlé pour commencer dans les films de Sylvain Georges, entre documenter un réel et des souffrances et des inégalités, et en même temps des spectacles de lutte et de militance pour essayer de faire prendre conscience ou de faire bouger la situation, de la transformer, d'agir au niveau de la politique. Cette double postulation me semble être une espèce de troisième voie, entre supposant donc la dialectique, le jeu dialectique entre le et la politique, l'égalité, les inégalités, l'enregistrement et l'engagement. Donc il n'est jamais question chez Sylvain Georges de prétendre régler les politiques migratoires européennes, mais il semble que ses œuvres ouvrent néanmoins un peu plus peut-être que ce qu'on imagine habituellement, le spectre de l'action pratique de l'art sur le réel, notamment en reconfiguration, en proposant une reconfiguration de ce que Rancière appelle le partage du sensible, au-delà, donc, comme troisième terme, au-delà de la dialectique, de l'opposition entre inégalité et égalité. Donc un sens plein à la notion de partage qui permet de dépasser la porie avec laquelle j'ai commencé. Donc du côté du cinéaste, bien sûr, il y a une véritable implication physique au cœur de la mêlée avec les Afghans dans la jungle, mais aussi les Érythréens notamment, qu'il a beaucoup côtoyés. Il discute, il crée des liens, il donc incarne l'égalité de manière non théorique, et surtout il leur donne la possibilité d'être visible, de s'exprimer, de faire entendre leur voix, ce qui est un premier effet très, très net sur le réel de sa pratique. Ce savoir visible est quelque chose qu'ils ont vraiment, dont ils comprennent, dont ils ressentent l'importance, et il arrive parfois que les émigrés enfin légalisés en France accompagnent la sortie des films et veulent faire directement entendre leur voix. En même temps, le rapport entre le réel et l'art se renverse peut-être. Ce n'est plus seulement l'art qui tente d'agir sur le réel, mais vraiment le réel et sa prégnance et son ouverture, sa possibilité de surprise qui agissent manifestement beaucoup sur l'œuvre de Sylvain Georges et qui contribuent à défendre une idée maintenue d'optimisme ou, comme il préfère souvent le dire, hein, puisque c'est un benjaminien féru, à parler d'organisation du pessimisme. Donc je voulais finir sur cette image des Lucioles, puisque organiser le pessimisme, c'est la devise sur laquelle finit aussi le livre de Georges Didier Huberman qui s'appelle « Survivance des Lucioles ». Où il analyse le désespoir du dernier Pasolini et les écrits apocalyptiques d'Agamben comme une question finalement de point de vue, une mauvaise focale sur le réel qui fait qu'on perd de vue l'existence de fragiles lueurs d'espérance. D'une certaine manière, les migrants de Calais sont manifestement des lucioles en elles-mêmes, puisque l'ouvrage de Didier Huberman se finit sur un exemple d'un court-métrage de Laura Waddington qui s'appelle Border, qui en 2002 se saisissait aussi de la question des migrants de Calais. Dans le travail plastique et formel que donne Sylvain Georges, ils sont vraiment cette possibilité de résistance, ces figures dialectiques entre la vie et la mort, l'égalité et l'inégalité, la résistance et la fragilité. Je finis, je suis vraiment désolée. Ce sont donc, pour citer Didier Huberman, des images pour protester contre la gloire du règne et ses faisceaux de dure lumière. Et peut-être l'emblème le plus net, c'est ce Temesgen dont je vous ai dit qu'on pouvait le confondre, qu'on le voyait sans qu'il soit nommé dans l'impossible, qu'il revient un tout petit peu de façon fugace, donc il repose en révolte. C'est le jeune homme qui évoque sa main comme le virus du sida et qui dit que préférerait se la couper, et dans les éclats il revient, et pour la première fois un personnage, enfin je dis personnage mais un migrant accède à la nomination dans l'œuvre de Sylvain Georges. C'est donc lui, c'est ce Temesgen qui l'a accompagné tout au long de ces 3 années et qui accède à la nomination au moment même où on découvre dans une scène un peu poignante qu'il est frappé de tuberculose, qu'il a contracté la tuberculose. Donc voilà, toute cette lumière de résistance absolue, nothing can stop him, et en même temps de maladie, c'est cette fugacité des lucioles, et c'est vraiment l'emblème de ce que Sylvain Georges qualifie lui-même, parlant de sa propre œuvre, de poème filmique incendiaire. Donc voilà, je m'arrête et je m'excuse pour le retard.
Rapidement pour ouvrir la discussion, d'accord, un petit peu de temps pour discuter. Ce que je trouve très bien, c'est que encore une fois, j'ai l'impression que la parole a circulé quand même entre des approches assez différentes et que on a ressaisi pas mal de questions du colloque tout en ouvrant de nouvelles. Je vous le disais tout à l'heure. D'abord au niveau de ce partage des représentations, de ces figures communes de la saisie contemporaine de l'injustice. Il me semble qu'il y a eu là encore un bel exemple d'écho et de partage des disciplines, de problèmes épistémologiques qui se posent de façon poreuse finalement dans des disciplines parallèles, de diction de l'injustice qui se rejoignent. On a eu aussi quelque chose sur les bonnes et les mauvaises représentations, enfin c'est un peu obsessionnel chez moi, mais sur cette tension entre des écueils contradictoires, comment avoir une représentation juste sur le fil entre dolorisme et idéalisation, par exemple, ou entre éthique et politique, représentation et action, non pas que l'une soit juste et injuste, mais l'autre injuste, mais en tout cas, on est toujours dans une représentation tendue entre différentes choses. Et enfin, un troisième point qui me semble relier un peu tout ce que vous avez dit, c'était aussi celle qui est relativement nouveau en revanche peut-être, qui est celui des fausses injustices ou des injustices surexposées, de celles que justement on n'a pas forcément tant que ça développé, et puis de ces vraies injustices qu'on ne voit pas, non pas parce qu'on n'a pas d'instrument de saisie, mais parce qu'on n'a même pas l'idée qu'elles ont à être saisies. Et il me semble que là, par exemple, Solange rejoignait aussi des choses que Colline a pu dire ce matin sur le fait que le problème ne semble même pas se poser, mais c'est parce qu'on ne sait même pas comment le poser ou qu'il doit être posé, ou ce que disait Vincent aussi sur les constructions des représentations. Et moi, une des questions qui m'agite énormément toujours, c'est, je me dis, on est des chercheurs, donc on est un peu plus loin peut-être que la société commune, disons, dans la saisie de ces injustices. Comme vous l'avez montré tous, quoi, vous voyez des champs qui ne sont pas vus. Et en même temps, ce qui est hyper intéressant toujours, c'est de se dire, oui, mais même nous qui cherchons à fond sur certains sujets, il y en a qu'on ne voit pas, qu'on ne voit toujours pas. Et donc moi, ma question, c'est toujours, bah, voilà, de qui sommes-nous les barbares et pourquoi, enfin, sur quel point? Et ça, évidemment, bon, bah, ça, c'est un espace de discussion infini. Donc, quelles sont les vraies injustices qui sont tellement, tellement, tellement profondes, effectivement, ou tellement impensables dans les termes de notre pensée, qu'on ne peut pas du tout les saisir, ni imaginer les instruments qui pourraient les saisir pour l'instant. Et alors là, il me semble qu'il y a tout un travail sur l'anachronisme qui pourrait être hyper intéressant, sur essayer d'imaginer une pensée du futur qui permettrait de ressaisir ce qu'on est en train de vivre maintenant et les violences qu'on ne voit pas. Mais bon, tout ça pour juste essayer de ressaisir un peu les points communs de ce qui a été dit avec aussi le reste du colloque et juste ouvrir la discussion. Donc je cède la parole à qui voudra la prendre.
Je ne voulais pas du tout prendre la parole à d'autres personnes. Non. En fait, ça rejoint ce que tu disais avec cette histoire d'anachronisme. C'était pour réagir au terrain de football, d'une part, et à la jungle de Calais, d'autre part. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans tout ça, c'est aussi l'historicité du sentiment d'injustice. Et c'est quelque chose qu'on peut montrer sur le temps long. Il y a un très beau livre de Bourdelais et Fassin sur l'anthropologie de l'espace moral qui commence sur le texte aussi analysé par Foucault, le Damiens qui essaye d'assassiner Louis XV, qui se fait supplicer et qui décrit le sentiment de justice mais aussi de plaisir qu'éprouvent les foules en regardant ça. Et à contrario, sur le temps court, hier, il y a une personne qui a rappelé le combat de migrants et de militants après Saint-Bernard pour se battre, pour changer le vocable, de remplacer le vocable de clandestin, celui qui triche, par celui de sans-papier, qui est victime d'une injustice. Et depuis ce temps-là, depuis Saint-Bernard, la manière dont le disciple a évolué dans l'espace public, la manière dont la respectabilisation du sentiment raciste a évolué dans l'espace public est juste sidérant, à la manière dont des gens qui ne s'opposent pas comme étant racistes mais qui disent des choses sans ni avoir peur de se prendre un poing dans la figure par celui qui les écoute, ni même passer pour un espèce d'extraterrestre horrible, c'est quelque chose qui est hallucinant ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé depuis 5 ans, que j'éprouve tous les jours, j'ai l'impression, dans l'espace public. Et dire ça, parler de la relativité du sentiment historique, du sentiment d'injustice, c'est pas faire du relativisme, mais dire que ce sentiment-là, il est le produit de tas de paramètres, parmi lesquels la production de savoir, mais aussi les mobilisations ou aussi la mise en la visibilisation aussi, ce que faisait de manière très belle le cinéaste dont on a vu le film hier, et que encore une fois, c'est pas faire du relativisme, mais j'ai en fait, par rapport au colloque sur ces inégalités, s'il devait avoir une deuxième partie, c'est quid des mobilisations, justement, dans la visibilisation de ces inégalités. C'est peut-être, vu le plaisir que manifestement beaucoup de gens ont éprouvé à aller à ce très beau colloque, une idée peut-être de suite pour l'année prochaine.
C'est que tu organiseras à Bordeaux, éventuellement au CNRS.
Je regrette vraiment beaucoup de devoir partir, mais j'étais très contente d'avoir comme le temps d'entendre ces quatre interventions. Bravo, je termine très bien. Ces quatre interventions passionnantes. Voilà. Et je voudrais m'adresser un instant à Inès Casalas.
Inès.
Oui, Inès, c'est ça. Inès Casalas. Parce que bon, il se trouve que je connais bien Zahia Rahmani depuis longtemps. J'avais même pensé l'inviter aux rencontres littéraires qui ont lieu chaque rentrée. Et puis finalement, j'ai invité Olivia Rosenthal parce qu'elle devait venir par ailleurs au TAP. Mais ce serait une bonne idée pour ces prochaines rencontres littéraires dont je ne serai pas. Voilà. Et bon, simplement, pour bien prendre la mesure de cette situation tout à fait singulière de Zahia Rahmani, je crois qu'il faut savoir ce que c'est qu'un harki. Et je ne suis pas absolument sûre que tout le monde, enfin, beaucoup d'étudiants nous font le plaisir d'être là cet après-midi. Même s'il y en avait un seul qui ignore ce que c'est qu'un harki, ce serait bien de le préciser. Parce que c'est décisif, évidemment, dans l'histoire de sa famille et de son père.
Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais les harkis sont des indigènes, pour reprendre la terminologie coloniale, qui ont été enrôlés comme supplétifs dans l'armée française et qui ont donc été amenés à combattre contre ce que Zahir Hamani appelle leurs frères. Ils se sont trouvés pris dans l'étau d'une double injustice historique, à savoir qu'ils ont été condamnés, torturés, emprisonnés comme traîtres par les Algériens en 62, et en même temps ils n'ont pas été reconnus par la France. Dans Mose, Zahir Hamani raconte que son père a dû faire tout un tas de procédures administratives pour demander la reconnaissance de sa nationalité française, c'est-à-dire connaître la honte d'avoir à revendiquer le fait qu'il avait commis des actes de bravoure contre les siens. On a vraiment bien vu dans le colloque qu'il y avait une communication entre l'injustice sociale et l'injustice historique. Et j'ai moins parlé de la figure du harki, mais évidemment, Mose est un livre qu'il faut lire. C'est le harki dit aussi à sa manière le mensonge de l'assimilation. Et il y a deux modèles historiques qui disent le mensonge de l'assimilation pour Zahir Hamani, c'est le harki et puis Auschwitz, hein, aussi, qui est très présent dans France récit d'une enfance. Et l'injustice extraordinaire qui aurait été faite, qui est
abandonnée par la France et marquée. Pour faire de la publicité pour ce qu'on fait, dans le cadre des conférences qu'on organise avec le laboratoire migrataire, il y aura deux conférences l'année prochaine sur la guerre d'Algérie. C'est des sujets dont on a déjà traité ici, donc les étudiants et le public sont invités à venir, bien entendu.
Bon, déjà, grand merci pour les quatre communications. Je voulais abonder un peu dans le sens de Raphaël, qui a dit comment nous, en tant que chercheurs, rendons visible l'injustice, ou même je rajouterais même invisible. Il ne faut pas plus différencier entre plusieurs types de concernés. Celui qui subit l'injustice, qu'est-ce qu'il voit lui, qu'est-ce qu'il peut voir ou qu'est-ce qu'il ne peut ne pas voir. Ensuite, celui qui la provoque et l'autre qui peut être à l'extérieur même, qui observe de l'extérieur ce conflit ou cette injustice ou ne la voit pas. Et donc, dans cette situation, nous nous trouvons tous un peu. On observe les différents acteurs dans ce cadre. Ce qui m'intéresserait dans ce sens-là aussi dans l'historicité de la science, de la recherche, il y a certainement dans tous les pays, moi je connais que celle de l'Allemagne plus précisément, des écoles de sociologie qui ont donc fortement participé à des mesures politiques qui étaient, bon, d'abord dans un bon sens,
pour motif d'éviter les révoltes sociales. Donc on inventait différentes mesures, genre les jardins
oubliés, donc c'est aussi l'Église qui a participé à ça.
Donc le paternalisme des entrepreneurs. Donc là, il y a aussi une forte contribution de science à toute cette histoire-là, où il y en a toujours, même dans les 30 glorieuses qu'on regarde maintenant un peu avec nostalgie. Il n'y a pas uniquement la recherche de la paix sociale pour distribuer les recherches, mais c'était aussi ce motif-là qui était derrière, qui est peut-être le seul qui est resté aujourd'hui, qu'on peut toujours décerner aussi dans les discours politiques. Quoi.
Merci beaucoup, effectivement, pour cette manière de distinguer, disons, tout simplement les points de vue. C'est un mot qui m'intéresse quand on parle de morale. Ça rejoint, là encore, des thèmes qu'on a, je crois, beaucoup évoqués aujourd'hui. Quand on parle de l'injustice, on est toujours dans cette recherche qui aboutit jamais, d'avoir un point de vue total, d'arriver à tout voir. C'est un peu ce que disait Raphaël tout à l'heure, hein, cette angoisse de se dire, mais mon Dieu, on est en train de passer à côté du pire. et on n'y arrive jamais. Et je crois que c'est aussi une question qui est importante quand on parle d'image, quand on parle de mettre en scène ou d'exprimer. On ne peut jamais avoir le point de vue total, on parle toujours d'un espace et on ne remet jamais tout en même temps. Mais effectivement, c'est très utile d'avoir ce jeu sur celui qui subit, celui qui commet et celui qui regarde, sachant qu'une des difficultés parfois, c'est de dire mais qui commet ? Beaucoup quand on parle d'injustice sociale, qui est dans cette position-là ? Peut-être celui qui commet et donc qui devrait avoir un certain type d'émotion liée.
Il me semble que...
Il y a aussi tous les mécanismes de refoulement. C'est-à-dire que celui qui regarde, en fait, est aussi celui qui commet, mais il ne se voit pas commettant.
Ouais.
Ça l'a fait pas de ça sur le mécanisme.
Et il me semble que le livre de Fassin et Bourdelette dont parlait Vincent tout à l'heure, justement, explore la question de l'invisibilisation, j'aime pas du tout ce terme, mais de certaines violences, notamment des violences capitalistes qui se sont en fait projetées à distance, puisque maintenant nos iPhones sont produits par des Chinois, mais on les...
Et les stratégies d'invisibilisation, les scènes du film, il y a Joanna Simeon qui a fait sa thèse sur les stratégies de mise en scène de la souffrance, sa propre souffrance, et de ce qui est une violence légitime, c'est... Enfin, et sur les grèves de la faim de sans-papiers, la manière dont un corps souffrant devient légitime aux yeux du plus grand nombre, c'est
Vincent, merci d'être venu à ce colloque. Merci, et on compte sur toi pour organiser donc le prochain l'année prochaine et nous inviter.
Merci. Oui. En écoutant Solange Chavel, je me disais, sur la visibilité ou l'invisibilité, je pensais, dans les événements récents, disons, on a décidé de dire dans l'entreprise, les salaires vont de 1 à 20. Qu'est-ce qui fait que cette inégalité, elle est acceptable, même acceptée qu'est-ce qui fait que... C'est acceptable. Alors déjà, dans l'acceptable, c'est quand même pacifique, c'est on daigne, bon, c'est disons non-violent. Bon, et l'inacceptable, c'est quand même plus violent. Mais là, au moment où on se dit, au moment où les gens en démocratie se disent, oui, c'est acceptable. Cette inégalité acceptable, qu'est-ce qui fait que s'établit en nous une frontière entre l'acceptable et l'inacceptable ? Par exemple, s'ils avaient dit entre 1 et 35, qu'est-ce que j'aurais dit ? Au moment où je dis c'est acceptable, est-ce que je me pose la question de pour qui ça ne pourrait pas être, pour qui ça pourrait être inacceptable ? Parce que je vois que pour tout le monde, c'est acceptable. Pratiquement, personne n'a élevé la voix dans tous les partis politiques. Un avant, c'est pas mal. C'est correct. Et voilà. Alors, déjà, comment se fait-il qu'on élabore une frontière entre l'acceptable et l'inacceptable ? Une frontière, on ne sait pas vraiment comment on la construit. On ne sait pas vraiment comment on construit cette frontière, mais elle se crée. Voilà. Et donc, en démocratie, si je dis... Si moi je vois l'injustice là, et si je suis tout seul, si je dis c'est inacceptable, je suis tout seul, je tape le poing sur la table, et en démocratie c'est difficile. Et voilà aussi l'injustice. Celui qui voit l'injustice, il est un peu seul comme celui qui voit un miracle, et donc ça facilite pas la tâche.
Ouais. Ouais, merci beaucoup, c'est des questions énormes, je sais pas si je pourrais apporter une réponse, mais effectivement ça rejoint un petit peu ce que j'essayais de dire tout à fait sur le sentiment d'indignation en injustice. Parfois effectivement on a l'air du fou qui voit des mirages, et parfois inversement on est dans la situation de celui qui en fait trop et qui voit pas. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai tendance à dire que ces sentiments et ce qu'on voit, ça peut venir après, ça peut avoir un rôle de mobilisation. Mais c'est des critères d'analyse qui sont finalement très fuyants. Quand on prend ces critères de 1 à 20 comme écart acceptable des salaires, pourquoi pas 35, effectivement, surtout quand on parle de questions salaires, on est dans l'arbitraire, hein, dans la question de l'arbitraire total. Et donc, du coup, qu'est-ce que ce serait des critères de l'inégalité acceptable ? On retombe sur cette question. On évoquait ce matin, tout à l'heure, Rawls ou Sen, et je pense que c'est justement des exemples de théoriciens qui cherche précisément à se poser cette question-là de manière analytique, en disant à partir de quel moment une inégalité, alors dans le cas de rôle, si une inégalité est acceptable, si elle profite au plus mal loti, c'est un critère qui finalement donne un outil de travail. Effectivement, si votre inégalité de salaire, au fond, elle permet d'élever le seuil minimal, ça peut être un critère. Quand on est dans le cas de Seine, on dit oui, bah, y a des inégalités qui vous placent en dessous d'un seuil de fonctionnement décent. Alors on peut commencer à réfléchir sur ce seuil de fonctionnement décent. Ça ne résout pas la question de l'égalité, mais ça donne un premier, disons, moyen d'action qui permet de distinguer entre des inégalités qui seraient de l'ordre de ce dont une société doit s'accommoder et puis de certaines qui amènent justement, qui réclament des mobilisations. Donc je pense aussi, là encore, devant le sentiment de malaise qu'on peut avoir, des sentiments de révolte ou d'injustice ou d'arbitraire, c'est des outils analytiques de ce type-là qui sont austères, qui sont pas évidents à manipuler, mais qui peuvent donner des...
Après, si je peux réagir à ce que tu dis, je pense que l'une des difficultés, c'est qu'on peut être tenté d'opposer justement à cette espèce de lexique des émotions qui peut nous sembler très arbitraire, une espèce de rôle attribué justement au savant, à la science dans la définition des problèmes, et c'est dangereux aussi. Enfin, ça a été beaucoup montré à propos de la race, et d'ailleurs c'était encore montré ce matin, les données scientifiques sont produites aussi en fonction de certaines interrogations, qui sont politiquement, socialement déterminées. Et c'est ce que disait, c'est Elisabeth de Fontenay, donc, qui dit que si on s'en remet aux critères scientifiques pour justifier l'antiracisme, par exemple, le jour où la science nous dira qu'en fait, il y a une différence biologique entre les blancs et les noirs, est-ce qu'on se sera justifié d'être raciste? Si ça peut être biologiquement observable, puisqu'on ne peut pas fonder le... Donc c'est toute la question, encore une fois, d'être sur le fil, je crois, entre plusieurs types de représentations et plusieurs types de démarches qui ont leurs vertus, parce que tu l'as montré aussi sur l'émotion, et je crois que Lucie aussi, sur la question des émotions, il y a aussi une vertu de l'émotion, justement. Donc,
ouais. C'est Prochasson qui est venu chez nous, qui a écrit un livre justement sur l'histoire et les émotions.
Dans la première table ronde, Nicolas Devoux, il avait dit quelque chose de cet ordre-là, en essayant de montrer qu'en fait, c'était parfois les critères d'opérationnalité qui pouvaient ensuite rejouer sur la redéfinition de l'inacceptable. Et il pointait justement sur la question sociale. Il disait que c'est très intéressant de voir qu'elle peut être réinterprétée dans le cadre d'une réflexion sur l'injustice en termes de discrimination. Donc l'idée de discrimination en raison de l'appartenance sociale. Pourquoi ? Parce que la discrimination apparaît comme étant un problème auquel renvoient des outils qu'on maîtrise mieux parce qu'on imagine tout de suite des outils juridiques, etc. Et surtout parce que ça ne touche pas l'ordre social de redistribution de la richesse de manière beaucoup plus fondamentale. On réaménage à la marge, on rétablit simplement un droit sans modifier les choses fondamentalement. Et ça m'amène à une question pour Inès concernant la question du rapport entre rupture et hommage. Toujours sur cette tension entre la question ethnoculturelle et puis la question sociale. Et ce que tu disais sur ce qui est en jeu, justement, dans ce double mouvement, rompre avec et en même temps rendre hommage à, si on ne pouvait pas le penser aussi sur le plan social, et quel type de différence on verrait apparaître si on devait l'appliquer. Je pense par exemple à des livres comme La place de Annie Ernaux, je pense par exemple à Nizan, quand il écrit sur Antoine Bloyer, le transfuge par le haut, celui qui sort de sa classe d'origine, quel type de regard, alors Monique pourrait nous en dire beaucoup là-dessus, quel type de regard il porte sur sa classe d'origine, est-ce qu'il le pense en termes de rupture et d'hommage, comment ça se joue, et est-ce que là on n'a pas un point de différence spécifique justement entre les deux champs de... Je ne sais pas si on pourrait l'appliquer de manière aussi transparente et idiote que ça.
À brûle pour point, j'aurais du mal à systématiser une différence, d'autant que dans le livre, les deux communiquent, à savoir qu'il y a hommage et transmission ethnoculturelle avec la mère, et puis il y a hommage et transmission plus sociale avec les villageois avec lesquels elle vivait. Donc les deux vont de pair et portent sur des savoirs différents qui sont reconnus dans les deux cas. le fait que, même dans son mode de vie, Zahira Mahni a choisi de vivre entre l'Oise et entre Paris.
On pourrait dire qu'il y a une valeur, par exemple la valeur de liberté, qui serait le point commun aux deux, mm-hmm. et que ce qui les différencie, c'est simplement les objets, par exemple.
voilà la réponse. Mais je les ai vraiment considérés comme une même démarche, à savoir une émancipation, une liberté, un acte de liberté dans les deux cas. Je vais réfléchir aux différences.
Le livre que vous avez cité à Parani Ernaud, j'avais pensé aussi, mais l'autre, je ne connais pas. Antoine Boyer ?
Antoine Boyer.
D'accord, ok.
Mais dans les, oui. dans les deux cas, il s'agit de s'émanciper de la honte. Mais après, chez Zahira Mahni, ce qui complique les choses, c'est que Annie Ernaux, c'est vraiment un choix d'être un transfuge et de trahir sa classe. Zahira Mahni, ce n'est pas un choix d'avoir trahi ses frères et d'être la fille d'un traître. Donc là, il y a peut-être déjà un élément de différenciation, à savoir que ce n'est, l'injustice historique n'est pas enfin, disons que la rupture avec les siens n'a pas été choisie par le. Disons que c'est très compliqué en fait. C'est extrêmement compliqué, mais je pense quand même qu'on ne peut pas tout à fait superposer des récits de honte tels que celui d'Annie Ernaux et de Zahira Mahni, parce qu'il y a ce contexte historique qui complexifie encore l'affirmation d'une liberté d'être la fille d'un traître qui devient elle-même, qui affirme une liberté. Ça complexifie encore l'objet. Mais... Ah non, mais en plus, il y avait... Tout à fait, mais là, je parle vraiment du point de vue de Zahira Mahni qui dit je ne peux reconnaître mon père comme un père, je vois avant tout un traître. Donc, à partir de là, honte sociale et honte historique se recoupent, mais sont quand même... différentes.
Moi, j'avais une question pour Lucie, mais si quelqu'un... En fait, c'était dans l'écho qui s'est créé... Ouais, non, mais je tombais sur l'éducation sentimentale, c'est juste, ça me ferait... Bon. Mais c'était dans le dialogue qui se noue pour moi dans ta communication avec celle d'Anne-Laure Bonvalot le premier jour, puisqu'Anne-Laure a expliqué justement que dans le roman espagnol, si je ressaisis un peu ce que tu avais dit, il y a une forme de refus du sentimentalisme dans les fictions dont tu as parlé, qui coïncide en fait avec un refus du roman mémoriel, et qui met en opposition finalement la préoccupation pour la mémoire et les victimes du passé, et une certaine indifférence en fait aux inégalités du présent. Quelque chose comme ça. Non, c'était pas ça. Vas-y, redis.
C'est en opposition, mais j'ai pas eu le temps d'évoquer. Enfin, je crois que je l'ai fait rapidement. Il y a certains romans d'Isaac Rosa qui s'inscrivent dans le genre mémoriel, mais de façon paradoxale. C'est quand même des romans de la mémoire, mais ouais. c'est d'une façon méta. Donc, il y a toute une trame. Il reprend vraiment la trame narrative typique du roman mémoriel avec un enquêteur un peu de son passé et des choses comme ça. Mais c'est toujours brisé. Il y a plein de processus de brisure, mais il est quand même dedans. Donc il y a un mouvement de, enfin il y a une opposition.
C'est encore un fichu roman sur la guerre d'Espagne.
Voilà, et le premier aussi, la mémoire vaine, c'est celui qui a.
Et du coup, est-ce que ça rejoint finalement ce dont a parlé Lucie sur le fait d'avoir de la fiction historique non sentimentale ou de, mais enfin.
Dans
parce
le cas,
que je trouvais que ça se répondait et en même temps ça marchait pas.
Oui, c'est vrai. Dans le cas d'Isaac Rosa, oui, je crois que vraiment, lui, il essaye de battre. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, il y a un travail sur la modération, parce qu'il y a quand même, le lecteur est quand même entraîné à plein de moments, et à chaque fois, c'est empêché par plein de procédés vraiment de cassure. de l'adhésion, si on puis dire. En revanche, il y a d'autres écrivains sur lesquels je travaille pour ma thèse, dont je n'ai pas pu parler hier, qui essayent de vraiment d'explorer l'émotion. Et c'est des romans qui sont très sentimentaux, sans être sentimentalistes. C'est un auteur qui s'appelle Alphonse Cervera qui fait ça, et qui le fait très bien. Mais peut-être que Lucie voulait...
Je ne connais pas les exemples espagnols. Mais ce qui est intéressant et que bien sûr j'aurais aimé développer, donc je me permets un tout petit extra sur cette question du sentimentalisme pour aller un petit peu plus loin sur Coetzee. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc il est dans un empêchement permanent vis-à-vis du lecteur de toute identification, de tout sentimentalisme. Mais Coetzee est en même temps l'auteur préféré de Martha Nussbaum, par exemple. Ou de personnes qui a critiqué Rouven Augien hier. Donc il est extrêmement aimé de Martha Nussbaum, donc dans sa théorie des émotions ou de l'amour comme connaissance. Il est aimé de Sandra Laugier et de Cora Diamond, qui sont donc trois lectrices ferventes de Coetzee, qui trouvent chez Coetzee, dans ce type de littérature, une réponse des exemples que la philosophie ne peut pas trouver. Et des exemples donc de travail sur la vulnérabilité, sur la compassion, sur donc des modèles qui deviennent les modèles du care, d'une espèce d'éthique compassionnelle que Coetzee lui-même, à d'autres moments récuse complètement. Donc il y a vraiment une espèce de dialogue entre littérature et philosophie qui est extrêmement compliqué et très problématique dans la mesure où donc l'éthique du care n'est pas du tout compatible avec le type de déconstruction que j'essayais de décrire chez Coetzee.
Mais, ouais, ce que je voulais pointer, c'était aussi le fait que chez Coetzee, comme chez Sebald, par exemple, c'est des auteurs à qui on a pu reprocher une certaine forme de retrait du présent quand même, et de retrait du politique. Et évidemment, que je sais très bien comment ils s'en sont défendus, et c'est des auteurs que, comme tu sais, j'aime beaucoup, mais de fait, comment est-ce qu'on... Enfin, c'est une discussion qu'on aura après, si tu veux, mais comment est-ce qu'on tient cette question du présent, malgré tout, comment est-ce qu'on rouvre sur le présent, et notamment chez Coetzee, je me demandais cette histoire, enfin, notamment Disgrâce, qui est un roman vraiment particulièrement perturbant, je pense, de ce point de vue-là, quelle est la passion juste pour construire du commun dans Disgrâce, par exemple.
C'est justement là que je parle d'un travail qui se fait en amont, qui ne mène pas à un appel à l'action. Donc Coetzee a été détesté et très critiqué par tout un pan de... Enfin, tous ses collègues réellement post-colonialistes sud-africains, donc tout un... blanc comme noir, d'ailleurs, enfin, des personnes plus engagées que lui pour une cause post-coloniale plus simple, et donc plus simple dans ses différenciations et dans les barrières qu'elle établissait entre le juste et l'injuste. Coetzee, au contraire, travaille, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que la littérature revient à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire travailler autour des seuils d'indistinction, de là où il y a un problème parce que la différence n'est pas si claire, parce que le bien et le mal n'est pas si clair, parce que la différence entre des populations ségrégées ou des populations opposées par une situation historique ou politique n'est pas évidente. Et c'est là que un travail littéraire arrive à déplacer des évidences et faire quelque chose qui n'est pas forcément lisible par des contemporains politiques, mais qui, de fait, a une durabilité plus grande qu'un mouvement postcolonial qui, aujourd'hui, n'aboutit pas sur de l'action, n'aboutit plus sur de l'action. Or, les textes de Coetzee se relisent aujourd'hui dans le contexte d'une critique de la démocratie et des modèles de la démocratie sud-africaine, qui est une critique de moyen terme, donc sur 30 ans, sur 30 ans de politique d'amnistie, de post-apartheid, etc. Et là, c'est le travail qu'il fait en amont sur ses passions, qui sont également des passions politiques et démocratiques, devient plus pertinent. Alors, j'ai pas répondu, mais j'ai encore fait un extra.
Tu vas finir ta communication.
J'aurais une question. Bon, peut-être pour toutes, peut-être plus pour Madame Chael, qui est peut-être plus habituée à répondre à ce type de questions. Elle portait sur la distinction très classique en philosophie, entre la justification et l'explication, et précisément au rôle qu'il pourrait y avoir de l'émotion. Je ne connais pas très bien Nussbaum, je connais les commentaires d'Aristote, mais c'est à peu près tout. Et je me demandais comment elle, si elle le fait, à surpasser cette distinction. Il semblerait qu'une émotion ne justifie pas normativement. elle n'a pas le rôle d'une raison. Elle peut avoir le rôle, enfin, je fais appel un peu à Aristote même, elle peut avoir le rôle d'une motivation, mais d'une justification dans le plan de la raison, enfin, des raisons pour lesquelles on prend X ou Y comportement ou action. Les mentions ont un peu de mal, parce que peut-être ce n'est pas son domaine. Et je profite peut-être pour placer la question dans un contexte plus général, au rôle de la littérature dans les questions morales ou politiques. Parce que est-ce qu'on demande à la littérature de solutionner des problèmes de contenu, des normes, ou est-ce qu'on demande à la littérature de faire une éducation sentimentale, par exemple, de nous rendre plus sensibles à certains trucs, enfin, certains phénomènes que par ailleurs on naturalise et on banalise. Ou si on demande vraiment, ce que pourrait choquer à M. Augien par ailleurs, de nous donner des normes. Enfin, voilà.
Je vais juste me permettre de répondre sur Nussbaum, et puis je crois que je suis encadrée par deux spécialistes de la question, quand même, littérature politique, ou en tout cas éducation sentimentale, enfin, qui seront trois.
Cinéma et politique, puis cinéma,
c'est pareil, donc je pense que je vais me tenir à la réponse technique. Je pense que chez Nussbaum, l'émotion, c'est un indice, en fait, pour le dire de manière modeste. L'émotion, c'est un indice d'une vulnérabilité. Ce n'est pas encore un critère. Ça n'a pas encore de contenu normatif. C'est quelque chose qui appelle une critique. Donc l'émotion en tant que telle, normativement, elle peut être désavouée ou elle peut être confortée par le travail d'analyse critique. Et donc c'est quelque chose qui est indispensable. Il y a cette idée que si on s'en tient à la théorie, on ne voit pas tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui a une valeur indépassable. C'est quelque chose qui est dans l'équilibre entre la reconnaissance de la vulnérabilité et puis un travail critique. Comme il y a eu beaucoup de questions qui rebondissent sur l'éducation sentimentale, moi aussi j'avais noté quand il disait le mot, peut-être.
Non, mais sur Nussbaum et l'utilisation d'exemples comme ceux-là pour pallier un manque d'exemples, disons, d'une philosophie morale en mal de renouvellement, enfin en recherche de nouveaux modèles, ce qui marche dans ces exemples littéraires dont elle s'empare là en ce moment, enfin dans ces 15 dernières années, c'est une combinaison entre un particularisme, donc s'attacher à dire le singulier là où le concept n'est plus valable, là où de grandes valeurs morales pose question, donc il faut revenir à des situations particulières, donc la capacité de la littérature à venir à un niveau singulier et avoir une analyse particulariste, et ça se combine avec autre chose qui est quelque chose de plus textuel, qui est la capacité à mettre en situation un énoncé, c'est-à-dire une conscience exacerbée dans le texte littéraire de la situation d'énonciation, enfin donc une forme de textualisme des propositions littéraires. Et c'est cette combinaison de particularisme et textualisme qui vraiment marche dans la recherche d'une nouvelle manière de faire de la philosophie morale. Donc ça ne remplace pas des exemples de philosophie morale, mais ça propose, enfin ça permet de penser autrement la démarche même d'une philosophie morale. Et c'est vraiment ce que propose Nussbaum. Mais je la critique pas complètement, je dis juste tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a des incompréhensions très intéressantes dans ce dialogue-là. Mais l'utilisation d'exemples littéraires est très forte, que ce soit chez Nussbaum, chez Cora Diamond, dont la thèse est que la littérature arrive à dire, elle appelle ça la difficulté de la réalité. Donc là, de nouveau, on est dans le particularisme, le singulier. Elle arrive à s'attacher à des situations où simplement les concepts de la philosophie n'arrivent pas à dire le réel, parce qu'ils ne vont pas suffisamment dans cette difficulté de description du réel que le littéraire peut faire. Et Logier, ensuite, bon, répète un petit peu les deux, mais de façon française, ce qui est aussi intéressant.
Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans la littérature met en fiction, met en scène des émotions, et il me semble que les normes sont aussi là, sous-jacentes. Lorsque Zahir Hamani dit « il faut entendre la souffrance de l'enfant », voilà, les normes sont là, mais simplement c'est la diction des normes qui diffère sans doute entre texte philosophique et texte littéraire, à savoir qu'elles sont plutôt narrativisées, elles sont mises en situation, particularisées, mais non énoncées de manière généralisante. Mais pense pas qu'on puisse dire que la littérature soit lieu des émotions et la philosophie morale lieu des normes. Et c'est plutôt dans la diction, diction de ces normes qu'il y a une différence.
C'est plutôt une question pour Marie-Martin. Je me suis demandé ce que lui inspirerait inspirerait la thèse que tu m'as semblé défendre, Solange, sur une sorte de primauté de la pensée par rapport à la perception de la justice ou à la vision de l'injustice, par rapport à ce que vous dites du travail de Sylvain Georges. Manifestement, il y a beaucoup de réflexions dans le préparatoire. Il a d'abord vu un certain nombre de choses, puis ensuite il a travaillé pour donner à voir. Et on imagine que pour voir quelque chose, il y a un décrochage important. Pour pouvoir donner à voir ce qu'on a vu, il y a énormément de travail. Les choses ne se font pas sans artifice, pour reprendre la formule célèbre. Mais en même temps, je me demande capable du coup de maintenir une opposition, ou ce qui m'apparaît être une petite opposition. Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand on voit, on a déjà beaucoup réfléchi, ou qu'il y a beaucoup de pensées dans la perception elle-même, parce qu'on pense dans un contexte institutionnel, parce qu'on pense dans un contexte où on voit, dans un contexte symbolique, etc. Et que finalement, est-ce qu'elle tient la séparation? Je vois bien, est-ce qu'on réfléchit d'abord Et analyse de quoi?
Ouais, alors effectivement, c'est caricatural hein, d'opposer le voir et le penser. Les deux sont mêlés. Mais c'est justement pour ça que je voulais aller contre une idée qu'il suffisait de voir. Parce que dans cette idée qu'il suffit de voir, il y a l'idée que le voir, c'est simple. Alors que justement, on donne à voir, ou on travaille sa vision, ou on peut l'affiner. Mais voilà, je pense que là, tu sauras mieux répondre que moi. Pour
niveau philosophique, non. Mais après, sur les procédures, effectivement, du travail de Sylvain Georges, lui-même, je ne sais pas à quel moment il voit les choses, puisqu'il les filme et ensuite il les retravaille. Je le disais ce matin, mais je le dis pour tout le monde, il ne filme pas en noir et blanc, par exemple. Il filme en couleur et ensuite, il fait un travail de post-production artisanale, mais où il repasse les images en noir et blanc et où il les sature plus ou moins, ou justement pour essayer de traduire une impression, une sensation. Est-ce qu'elle est du domaine du tournage? Assez souvent, je pense qu'il veut restituer une impression qu'il a eue au tournage et donc l'amplifier par le travail plastique, mais il se peut aussi qu'après, quand il retravaille, parce qu'il retravaille beaucoup ses films, il y a plein de versions, il voit de nouvelles choses. Et bien sûr, sur la primauté du voir, sur la perception ou de la pensée, c'est difficile, puisque Sylvain Georges a une formation de penseur. Bon, c'est pas pour rien qu'il voit, par exemple, dans le Beffroi de Calais, WB 1940, et qu'il le prend, alors qu'on aurait pu ne pas le voir et ne pas... Enfin, bon, je ne peux pas répondre sur la primauté, mais en tout cas, chez lui, c'est très intriqué. Les deux sont constants. Après, mon souci, c'est peut-être plutôt si on arrive au spectateur. Et moi, j'arrive plus à me souvenir de l'expérience de première vision de ses œuvres. Enfin, je crois me souvenir que je ne comprenais pas tout et que le dessaisissement était beaucoup plus important que la compréhension, que la perception, enfin l'analyse. Mais maintenant que je les ai vus et revus, que j'ai travaillé dessus, bon, tout ça me paraît lumineux. Après, bon, ce serait plutôt à vous de dire, le public était un peu muet hier, donc je ne sais pas si c'était à mettre au compte justement d'une espèce de... voilà, mais tout simplement peut-être, ou d'un déferlement, ou de la difficulté à faire entrer les choses dans un processus réflexif immédiat. En tout cas, je pense que c'est une forme à la fois très productive, très complexe, en même temps risquée, tout simplement, parce que peut-être elle n'arrive pas à faire voir jusqu'au bout les choses, et que voilà, la dialectique même fait que peut-être on reste plutôt sur la vision d'un seul final, et donc quelque chose du devenir fantomatique des êtres, ou alors les champs premiers, le repas, et finalement, quelqu'un me disait au repas, au début, on croirait qu'ils sont dans un camp de vacances, c'est plutôt sympa. Donc, bon, c'est toujours dans cet entre-deux-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme on a commencé 10 minutes en avance, on peut peut-être finir 5 minutes en avance et clore ce beau colloque. Je vous remercie d'être venu assister pour certains à l'ensemble du colloque. J'espère qu'on pourra faire les présentations après, parce qu'il y en a certains que je ne connais pas. C'est la fin du colloque, mais pas tout à fait, en fait, puisque de 18h à 20h ce soir, donc, je vous invite tous à nous rejoindre au vernissage de l'exposition « Photographier les inégalités au plan B », qui a été organisée par les étudiants, et plus particulièrement par Théo Rivière. Et donc, on aura un apéritif de clôture du colloque. Pour ceux qui vont en train d'apprendre, le plan B, c'est l'avenue de la gare. Donc, c'est vraiment juste à côté de la gare. Pour ceux qui n'ont pas de train à prendre, bah, simplement, venez boire un verre. Comme ça, on pourra poursuivre les débats dans un cadre moins formel. Merci encore de votre participation. Et donc, j'espère à Bordeaux l'an prochain pour le colloque sur le leadership.